upon my face. Leave all my worries in the gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. Counting the days until summer. Feeling the warm rays upon my face. Leave all my worries in the gentle breeze. Big sunshine and new life.
C'est à moi là, je suis pas du tout prêt encore. Faut que j'arrête la musique là. Ok, je suis en train d'écrire dans le chat à Naotech Team pour les remercier. Merci pour le raid Naotech Team. Je crois que c'est ok. Je mets un petit cœur. Voilà. on va. Je vais vous afficher la. Je vais vous allumer la caméra. Oh, j'ai rien fait. Hop. Et je vais vous mettre la. Je vais vous épingler l'excellente chaîne d'ailleurs. Je suis dessus là. Qui vient de nous raid. Excellente chaîne d'actualité de la tech, tout le monde la connaît, tout le monde qui ne connaît pas Naotech, hein. Hop, tchou. Hop, et je vous épingle ça. Mais si vous la connaissez pas, c'est l'occasion d'aller découvrir cette chaîne, qui est une chaîne d'actualité, voilà, de la tech, voilà, avec notamment une matinale, voilà. Oh, mais alors très matinale ce matin, dis donc, parce que là, elle est déjà terminée. Et puis c'est une chaîne YouTube aussi, voilà. Et Voxia qui dit, j'ai tous les droits maintenant, c'est quoi? C'est quoi? C'est encore un échange dinguerie de ne pas être prêt à ton propre stream. Ok. Ah ouais. Comme ça. Ok. On salue Gabin qui, grâce à la SNCF, était avec nous. Merci à la SNCF de me permettre de suivre ton live grâce à une panne d'aiguillage. Bah oui, ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai failli pas pouvoir streamer ce matin. Ouais. Comme Evoxia l'évoquait à l'instant avec toute la gentillesse dont elle est capable. J'avais un petit problème de carte d'acquisition et je ne pouvais pas vous montrer ceci, les journaux. Donc, imaginez-moi râler. En vrai, j'ai pas râlé. Je me bonifie avec l'agent, en vrai. Je suis passé immortal sur Valo, je me sens trop chaude. Ouais, j'ai vu, Evoxia. J'ai vu. Imo en solo queue, si je dis pas de bêtises. Hein? T'as vu, je suis ton actualité, hein. Comme moi. En solo queue. mais pas IMO. Et donc, tu imagines, tu te lèves le matin, bon, tu te lèves assez tôt pour lire les journaux, tous les journaux, pour que, voilà, pour passer en revue les trucs intéressants, les trucs importants, intéressants. Donc, tu lis pendant 3 heures, quoi. Tu prépares la revue de presse, et puis tu arrives ici, pff, et c'est le même setup qu'hier et tout, et tout marche, le son, l'image, OBS, tout. Mais tu n'arrives pas à obtenir ça, c'est-à-dire le contenu de ton iPad, quoi, qui passe par une carte d'acquisition, rien de compliqué, quoi. Et bon, alors en général, c'est pas grand-chose, parce que c'est un petit peu fragile, ces petits trucs-là, donc tu désactives, t'actives une fois, deux fois, trois fois, tu redémarres OBS, bon, tu redémarres le PC. Bon, rien qui marche. Bon, c'est pas normal. Donc, tu changes de carte d'acquisition, t'en prends une autre, ça marche pas. Tu changes les câbles, non, rien du tout. Hein. Donc, ça m'a pris une petite demi-heure quand même. J'étais prêt à lancer à 9h. Et puis, à un moment, magie, mystère, joie de l'informatique, comme dit Odd à la joie dans le chat à l'instant, ça marche. Donc, je prends mon mal en patience, je prends le temps. Là, j'avais mon petit café, j'avais mon petit roulé à la cardamone, j'étais bien. Voilà. Et donc, ça, voilà. Donc je suis heureux d'être là et de pouvoir vous lire les journaux et de voir que le setup fonctionne bien. Merci Skippy. Merci pour le 2e mois d'abonnement. Merci Renifleur de Pep et AX pour le 33e mois d'abonnement, ce qui fait beaucoup. Merci Naotech encore. Allez voir cette chaîne en vrai. Hein. Je l'ai épinglé en haut. Pas mal le t-shirt. Mais Voxia, c'est mon t-shirt de tous les jours. C'est mon t-shirt bleu. C'est Lio. Hein? Je vois plein de bonjours de la Corse. J'ai vu un bonjour de Balagne tout à l'heure. Il a joué un coucou depuis l'aéroport de Bastia. Ça a dû nous donner l'escargot. Trop bien. Alors, Evoxia m'a fait la même remarque hier sur mon t-shirt bleu qui est le même tous les jours quasiment. Pas le même, hein, je le change, mais c'est le même. Et donc, je lui ai dit la même chose. Et elle m'a répondu la même chose à l'instant. J'ai compris, on n'a plus le droit de faire des compliments. Tu as dit la même chose hier. C'est fou ça. Hein? Ah oui, c'est Lio qui a fait une collab avec la K-Corp. J'ai vu ça, je suis passé devant un magasin c'est Lio il y a quelques jours. Et j'ai vu une affiche, bientôt une collab avec la K-Corp et tout. Et j'ai vu, j'ai même vu un tweet là-dessus, je crois. On va aller voir. C'est Lio K-Corp. Bah, c'est Lio, j'ai pas d'action chez eux. Alors, j'ai remarqué qu'ils faisaient souvent des trucs sur l'univers des jeux vidéo. Alors... Ah ouais, ça arrive là. Attends, on voit des trucs ou pas? Bon, il y a des gens qui postent des trucs en fait, ouais, sur les réseaux. Ouais. Ah, oh, ça sent les sardines grillées, putain, il y a un mec qui grille des sardines grillées dans la course, c'est un enfer. Oh, mon Dieu, j'adore, hein, mais c'est... Attends, vous avez rien là. Voilà. Regardez, là on est à Aulnay-sous-Bois. C'est un gars qui pose ça. Ouais. Et là, c'est pas, ça a l'air pas mal en vrai. T'es sobre et tout? Ouais. Ouais, ils font des collabs sur des animés aussi, ouais, je sais. Je leur achète des t-shirts récemment. Marrant, ça. La dessinatrice des t-shirts s'appelle Pichou, me dit Nico Manga. Quand vous savez tout ça, vous. Ouais. Evoxia, toi qui manges des chipots le matin, tu devrais kiffer. Oui, c'est mon secret de beauté, je mange des chipots le matin. Ouais, mais les sardines grillées, ça sent fort quand même. Ok. Ok, c'est pas mal, ça. Ah bah voilà, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est la vitrine, là. Mais certaines boutiques ont déjà les vêtements alors. Je suis en mode chiffon ce matin, comme Evoxia me parle de t-shirt. Ah ben il y en a qu'on le... Jenny, elle a déjà le t-shirt. Voyons. Ah ouais, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Ah, Tom me dit, les sardines c'est moi, j'ai pris mon désaccord. Ouais, mais c'est sûrement très bon Tom, mais ça pue en vrai. Ça sent fort. J'adore moi, mais ça sent fort quand même. On peut parler de pantalon si tu veux aussi. Hop, doucement, Evoxia, ça va nous emmener sur des terrains, ça. Voilà. Ok. Le corn dog, ah, j'ai essayé, Catchip, j'ai essayé une fois, c'était pas mauvais en vrai. Allez, je vous lis un petit peu, c'est mon bonheur. Ça nous met, on fait le plein de bonne humeur et après, je vous lis un peu les journaux. Oui, j'ai vu Oasis. Eh oui, Oasis, on en parlait. Terrain glissant, comme disent les jeunes. Ouais, j'ai vu, hier, on en parlait de ce tweet très mystérieux d'Oasis, le groupe. Voilà. Qui annonçait peut-être une reformation, bah, je crois que c'est fait, on a l'info, c'est tombé ce matin. Donc je vous montre le tweet très mystérieux dont on parlait hier, qui m'a hypé moi, parce que c'est un de mes groupes préférés, voilà, comme beaucoup de vieux. Oasis donc, a posté le 26 août, donc hier, ce tweet mystérieux, 27 août 2024, 8 a.m., donc le lendemain, soit aujourd'hui, et effectivement, bam, ils l'ont posté. This is happening. Et donc, on a manifestement une tournée, une reformation, bande de belles personnes, ouais. le line-up original avec Carlos. Bon, là, il faut avoir la ref. Oasis, Oasis O, Oasis, Oasis A. Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc, etc. This is it, this is happening. Donc, reformation d'Oasis. Il y a du son, là.
Me and him are like telepathic, you know what I mean? I know my brother better than anybody else.
When both come together, we have greatness.
Ils sont pas fait chier. La vidéo est montée n'importe comment. Elle est vraiment dégueulasse, la vidéo. Ils ont pas un mec au son pour mixer ça? Attends, c'est un montage de Wish, quoi. Non, mais même moi, je peux faire mieux que ça. Attends, ils ont pas des sous pour payer un gars pour monter leur truc, là? Putain, mais c'est monté, c'est même pas monté avec les pieds, quoi. Putain, c'est un groupe mythique, le mec, il est... Oh, quel daube! Bon, c'est dommage. C'est pas à la hauteur de l'annonce, quoi. Bon, bref, reformation du groupe. Et il y a une série de concerts annoncés. Certains, en rigolant, disaient reformation le 27, dissolution du groupe le 28. Oui, parce que c'est vrai qu'ils s'entendent. C'est rock'n'roll, tu peux pas comprendre. Non, non, c'est pas rock'n'roll, c'est de la daube. Donc, Cardiff, Manchester, London, Édimbourg et Dublin. Ok. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 dates. C'est peut-être un test avant. Plus, il y a un autre tweet. Ok. Donc, UK, Ireland, Summer. C'est dans un an. C'est dans un an. Oh, ils ont le temps de se refâcher d'ici là. Ok. C'est quoi ça? Et là, ils annoncent un album réédition de luxe, truc là. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Bah, je suis content, je suis content. Je suis content parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Bon, ça vous hype un petit peu ou pas? Non, arrêtez, le montage, il était pas cool en vrai. Non, c'est décevant, quoi. Alors, en plus, ils ont des beaux clips. C'est underground de faire un montage propre? Ah, de pas faire un montage propre? Ah ouais, bah, je suis passé underground alors. Ok. Je suis incroyablement hypé par cette annonce de fou furieux, malade mental. Oui, Hard Rock Gamer, je te comprends, mon ami. Ouais. Ils sont obligés de jouer à Rock en scène après leur séparation là-bas. Oui. Mais pour l'instant, ça n'est pas annoncé. Ouais. Connaissant Noël, il a sûrement besoin d'argent. Connaissant le succès de leur carrière solo respective à tous les deux, qui n'est pas terrible. Effectivement, peut-être, hein. Peut-être, hein. Ok. Il y a d'autres annonces comme ça importantes que j'aurais ratées ou pas? Salut Yoshi Forever, merci pour le 30e mois. Merci Pifomet, merci pour le 33e mois. Merci Deborah Lane, merci pour le 26e mois. C'est quoi ces anciennetés de fou là? La marmotte folle, merci pour ce 2e mois et pour le bonne journée. C'est marrant parce qu'on a la marmotte folle qui a sub juste après Skippy. Donc t'as un team kangourou marmotte là qui est trop, trop cool. Moi je veux un album, des concerts en UK, je m'en fous. Bah Marvel, je suis un peu comme toi moi. Linkin Park a fait un décompte mystérieux, me dit-on aussi dans le chat. Mais Linkin Park. Attendez, Linkin Park, les gars. Il nous manque quelqu'un dans Linkin Park. Non? J'ai raté un épisode là? Il nous manque le chanteur, non? Chester? Ben ouais, alors là, C'est... Vous voulez qu'on pleure encore ou quoi ? Ça, c'est triste, bordel. Linkin Park, vous avez raison. Il y a un décompte qui va se terminer manifestement dans... C'est quoi ce truc-là ? Oh, c'est bizarre. Ouais, Chester, putain, quelle histoire. C'est trop... Quel bonhomme incroyable, celui-là. Mais alors, du coup, c'est quoi l'actu ? Oh, ça, c'est triste. Quelle histoire. Hein, c'est quoi, du coup, c'est quoi l'actu sur Linkin Park, tu quoi ? Linkin Park by EDF, je valide la blague d'AES dans le chat, c'est validé, ça. C'est validé. Linkin Park. Des rumeurs de reformation avec une chanteuse ? Ok, il paraît d'un nouveau chanteur, peut-être une chanteuse, me dirait Sam également. Ok, d'accord, ok. Oh là là, ouais, mais ça va remuer des trucs, ça. Ah, Chester, qui peut... Personne ne remplace. Pardon, hein, je suis... Là, je vais être très passéiste et très... Mais qui peut remplacer Chester, quoi ? Hein ? Ouais, c'est... Waouh. Putain, il était tellement... Hein ? Empires dit autant former un autre groupe alors je dis oui. Linkin Park c'est notamment Chester, c'est sans Chester c'est plus Linkin Park, c'est autre chose. Hein. Ouais. Après ils font ce qu'ils veulent en soi. Ouais, t'as raison, Succombe TV en vrai. Pom-pom, mais pas très au courant. Ils n'avaient pas déjà un chanteur pour le remplacer ? Il s'est barré ? Ah non, tu parles d'autre chose. Ok, d'accord. Ouais. J'ai cette info. Moi, Macron ne veut pas de Lucie Castet. Merci, Crayon, pour cette info. On va en parler ce matin. Ouais, ok. Ouais. Mais il était quand même... Non, puis surtout, il y a beaucoup d'émotions autour de la disparition, la mort de Chester, donc c'est ça qui est dur, en vrai. Ouais. C'est comme, vous savez, quand le batteur des Foo Fighters s'est parti, là, et qu'on a vu son... Cette vidéo, vous avez la ref ? Vous savez... Et quand son fils est venu lui rendre hommage en jouant avec les Foo Fighters... Vous savez ? Ça a donné une scène. Moi, elle me fait pleurer, quoi. Vous voyez de quoi ? Ouais, son fils. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas ? Tiens, je vais vous montrer cette vidéo qui est insane. Oh là là, c'est tellement... Pardon, je veux partager ça avec vous. C'est juste incroyable, ça. Parfois, je passe une heure à regarder en boucle cette vidéo-là et d'autres. Voilà. Donc, j'ai pas le contexte exact, mais en gros, c'est après la mort du batteur de Foo Fighters, qui est en vrai mon groupe préféré aujourd'hui, donc Shane Hawkins. Et en fait, leur fils, qui s'appelle Taylor Hawkins, qui est batteur également, voilà, qu'on a vu jouer tout petit déjà, enfant, et voilà, est venu rendre hommage à son père en jouant avec les Foo Fighters, quoi. Et cette séquence est trop belle. Je vais vous la montrer si vous voulez bien. Merci Ursien81. Merci Flouda. Merci Roctali. Merci Le Phil. Merci Yoshi Forever. Vous connaissez cette séquence ou pas ? Oui, Taylor, c'est le père, ouais. J'ai inversé ? Pardon. Pardon. Taylor, c'était le père. Et Shane, c'est le fils. Pardon, j'ai inversé. Alors, je vous montre cette vidéo qui est juste superbe. Voilà. Vous ne connaissez pas ? Bon, ben, il faut. Je pense que même quand on ne connaît pas les Foo Fighters, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire. Vous allez sentir l'émotion de cette scène qui est incroyable. La chanson, c'est My Hero. Hein, et ça se passait voilà, à The Taylor Hawkins Tribute Concert. Donc le concert en hommage à Taylor Hawkins. Voilà. Et donc, on voit bien sûr le Foo Fighters. On voit, c'est quoi ? C'est Dave Grohl, le chanteur ? Je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Voilà. Et ça donne ça, et c'est très, très, très émouvant. Now. Let's go. Il est tout jeune, il est beau comme un ange, il a perdu son père, il vient lui rendre hommage en jouant. Vous savez quoi ? on va la regarder cette vidéo, on va la regarder en entier. Ok. Wow. J'ai vu cette vidéo un nombre incalculable de fois. Elle est tellement chargée de fou. Incroyable. Bon, bah là, je suis content de, pour ceux qui ne connaissaient pas, de vous faire découvrir cette histoire très très forte, donc d'un fils qui rend hommage à son père batteur. Voilà. Et je, même quand on ne connaît pas l'histoire de cette histoire-là et qu'on ne connaît pas Foo Fighters, je pense qu'on sent, on sent tous ce qu'il y a dans, cette, dans ce morceau et dans, cette, et dans ce bel hommage que du coup Foo Fighters a rendu. Oh, ça repart là. Et c'est marrant, cette vidéo, je la connais par cœur, mais je pourrais la revoir un milliard de fois. Quoi. Il a grandi depuis d'ailleurs, mais je crois qu'il est batteur d'ailleurs. Ouais. C'était fou, hein. Voilà. Et puis ceux qui connaissent l'histoire de Foo Fighters connaissaient déjà l'histoire. Voilà. Mais c'est un beau groupe, c'est une belle histoire. Certains parlaient de Nirvana, il faut savoir que Dave Grohl, donc le chanteur, le leader de Foo Fighters, est l'ancien batteur de Nirvana, c'est une histoire de batteur. Voilà. Et puis moi, c'était l'instrument que je jouais quand j'étais jeune. Voilà, je me promets toujours de reprendre un jour, mais... manque de temps, et donc du coup c'est une histoire qui me touche particulièrement. Voilà. Bon, en tout cas content de vous avoir fait découvrir ça pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire. Lemon Ad, merci pour le 9e mois, Onizuka pour le 3e mois, Gogo 12367, merci beaucoup pour le soutien, Mister Hello pour les beats, Urchien, Flouda, Rocktali, encore merci, et tout ça parce qu'on parlait d'Oasis ce matin qui se reforme. Bon, la question c'est combien de temps ça va durer. Bonjour, c'est possible d'avoir le lien de cette vidéo s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Après tu peux le trouver en 2 secondes sur... Tu peux la trouver en... je vous l'épingle. Tu peux la trouver en 2 secondes sur YouTube. Tiens, je te la mets. Hop. Je te l'épingle en haut. Voilà. Voilà les amis. Ouais. Elle est belle cette histoire. Ouais. Sinon, comment ça va vous? On parlait des actualités que j'aurais ratées. On a parlé de... On a parlé de la K-Corp, on a parlé de, des t-shirts de la K-Corp. On a, quelqu'un me disait, ça y est, le stade de la K-Corp est ouvert. Ça y est, c'est fait. Il y a aussi l'annonce du match retour Espagne-France à Mines. Ouais, j'ai vu ça. Attendez, c'est ouvert le stade? Ça y est? Déjà? Attendez, je... Mais déjà? Il y a des places sont à vendre, bah, je vais acheter des places alors. Début septembre, à Évry. Oui. Il y a un article de l'équipe. L'équipe, le journal, mesdames et messieurs. La Carmine Corp arrive dans son stade. Fondateur de la Carmine Corp, Kamel, Kameto, Kebir, a annoncé ce dimanche sur Twitch le programme du week-end d'ouverture des arènes de la KC, les 20 et 21 septembre à Évry-Courcouronnes. Le stade du Blue Wall accueillera du LOL et du Rocket League. Waouh! Ah ouais, un petit article dans l'équipe quand même, hein. Ça le fait. Près d'un an après une annonce en grande pompe devant 29 000 personnes à la Défense Arena, la Carmine Corp est sur le point donc d'inaugurer son nouveau QG. Dimanche soir, Kamel a livré le détail du programme de l'ouverture donc c'est le nom officiel des arènes d'Évry-Courcouronnes, le stade de la KC, enceinte de plusieurs milliers de places, s'il vous plaît, où se disputeront en public. C'est une grande première en France, hein, un club d'e-sport comme ça qui a son stade, non? Où se disputeront en public quelque chose d'aussi gros, on est d'accord, hein? Des matchs de la structure d'e-sport la plus populaire de l'Hexagone, désormais club résident, rareté dans la discipline. En Europe même? Waouh! C'est insane. Il y a une vidéo ou pas? Il a fait une vidéo? Kameto? Waouh! Les premières joutes de la Carmine dans l'Essonne, le fief du streamer et fondateur du club, sont prévues pour les 20 et 21 septembre prochains. Sans surprise, c'est LOL qui ouvrira cette nouvelle ère. L'équipe LFL de la Carmine jouera le vendredi 20 son quart de finale de Coupe de France. Oh, ouais, c'est waouh! Il y a qu'en Chine et en Corée qu'il y a des stades comme ça. Quelle légende ce Kameto, putain. Le lendemain soir, les arènes de l'Agora, c'est quelques 3000 places, accueilleront la finale de la Normal Player Cup, événement communautaire du Rocket League. Waouh. Les places, donc à partir du 29 août, premier prix à 12 euros. Ok. GG, hein. Hein, c'est fou, hein. C'est fou que ce soit diffusé sur France Télé. C'est diffusé sur France Télé? Info? Moi, j'avais entendu parler de ça, mais je pensais que c'était pas annoncé. Je crois que j'ai entendu dire que la France Télé va acheter les droits télé de la Coupe de France de LOL. J'ai entendu ça, moi. Vous avez pas entendu ça, vous ? Parce que quelqu'un me dit ça dans le chat. La pub est passée sur France 2 hier soir. J'ai entendu un truc comme ça. Je trouve pas l'article, mais quelqu'un me dit qu'il a vu la pub hier soir sur France 2. Oui, me dit check, France Télé a les droits TV de la Coupe de France de LOL. Ouais, ouais. Ils veulent le diffuser sur, je crois, sur leur chaîne Twitch et sur leur chaîne France.tv. Non, non, mais c'est vrai. Attendez, laissez-moi vous dire un truc là-dessus, puisque c'est officiel. Ouais, bon, on m'a proposé de caster justement des matchs de la Coupe de France de LOL, enfin en noob, hein, avec un expert à côté. Sauf que j'ai déjà un engagement. Voilà, donc a priori c'est pas possible. Ouais. Ouais. Et les horaires d'une Coupe de France de LOL, ça se bouge pas. Et mon émission, ça se bouge pas non plus. Voilà. T'as pas le choix. Je fais trop de trucs et je peux pas le bouger. Voilà. Ouais. Ouais, bah c'est comme ça. C'est pas grave. On peut pas tout faire. Voilà. Mais donc c'est officiel. Oui, je l'ai entendu effectivement. Et après, vous avez l'info. France Télé va diffuser la Coupe de France de LOL. C'est incroyable. Hein voilà. D'autres infos ? Putain, ce matin, c'est gavé d'infos. Hein. Merci Jean-Sébastien pour le 15e mois. Merci Mag Rousse Lavray pour le 11e mois. Merci Luluzark. Pourtant, tu arrives à être à la fois sur Question pour un champion sur Twitch. Oui, mais les journées ne font que 24 heures, même en dormant peu. Quand un événement a lieu à la même heure. En fait, moi, à la même heure, je fais un truc. Voilà. À la même heure, je fais un truc et je ne peux pas le bouger. Enfin, je ne peux pas me libérer suffisamment tôt pour le début du cast, en fait. Voilà, ça arrive. France 2, alors il n'y a pas de précision. Est-ce que ce sera diffusé sur France 2, France 3 ? Mais moi, j'ai entendu dire sur France.tv, donc la chaîne télé du numérique, sur Internet, et sur peut-être leur chaîne Twitch. Voilà, mais ça, je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais en tout cas, je sais qu'effectivement, ils ont acheté les droits. Bonne nouvelle, info de dernière minute, je viens d'avoir un entretien d'embauche pour un plein temps, bientôt fini le chômage, Barten Zing, GG à toi. Voilà, @ me confirme, c'est sur la chaîne Twitch de France Télé. Ok, tu m'as envoyé un lien ? Tu m'as envoyé un lien ouf, mon ami. Sur Twitch ? Tu m'as envoyé un DM Twitter ? Non, je ne l'ai pas. Tu m'as envoyé un lien où ? Parce que des liens, ça peut être sur TikTok, sur Insta, sur Twitch, ça peut être où encore ? Ça peut être sur Minitel, moi j'ai encore ma chaîne, mon 3615. Là, je ne vois pas. En tout cas, c'est marrant. Ouais. La finale sera en direct de la PGW. Ouais. Sur Copain d'avant, ouais. En MP Twitch. Ben, en MP Twitch, je ne vois rien, les amis. Comment ça se fait que vos messages ne me parviennent pas ? Ah si, merci. @ je l'ai. Ça y est, Clément, je l'ai aussi. Ok. Merci. Ça y est, je l'ai. J'ai trouvé. Ouais, hop, regardez. Merci les modos, merci les viewers. Donc c'est la Banque Postale Coupe de France, c'est le nom officiel hein, de la compétition. Ça, je le savais. Et de retour, rendez-vous le 16 septembre pour le début des phases finales, le mercredi 23 octobre en direct de la PJW pour la finale. Bon, voilà, le 23 octobre, j'ai un truc. La compétition sera suivie en direct sur la chaîne Twitch de France TV / donc c'est sûr, voilà. Et après, donc voilà. C'est bien ça. Voilà. Ouais, les références à... Il y a des références à LOL dans ce clip ou quoi ? Je suis pas un grand spécialiste de LOL. Je sais pas. Où on pourrait faire ce clip pour n'importe quel jeu ? J'ai pas les refs là. Ouais, je sais pas. On voit quelque... D'accord, ok. Ok, ok. Ah, il y a un clip de LOL sur le Bing, j'ai raté. Ok, très bien. Bon, bah, vous êtes riche d'informations ce matin, hein, c'est incroyable. Hein. Vous êtes des foufous, bravo. Hein. Top. Bon, 10h, je vous laisse à midi, autant dire qu'il serait peut-être temps d'aller sur la revue de presse, vous en pensez quoi ? Oui, Nico Manga, ça, je pense que tout le monde l'a vu, on l'a même annoncé hier dans cette revue de presse. Vous êtes prêts pour la revue de presse ? Let's go, je vous fais un petit sommaire pour commencer, comme ça vous avez l'essentiel de l'actualité en 5 minutes, ok ? Ok, allez, c'est parti. Un petit, il est où mon Yassine ? Là, bougez pas. GG, j'ai juste G. J'aimerais offrir à mon neveu des journaux du monde entier le jour de sa naissance. Oh, tu vas trouver ça sur Internet ?
Yeah, baby !
Oh, il est bien celui-là. Ok, let's go. Petit sommaire, les amis. Il y en a pour 5 minutes. Et après, on passe sur la lecture de ces articles. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité aujourd'hui ? Où en est-on ? De ce feuilleton politique de l'été après les législatives, quand est-ce que la France aura un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre ? Voilà. Eh bien, où en est-on ce matin, hein, ce mardi 27 août ? On en est exactement, Tiklem. On en est nulle part. Voilà, toujours rien. Toujours dans l'impasse, titre Le Parisien ce matin. Hein, Jean-Luc Mélenchon a tenté un truc ce week-end, je vous en ai parlé hier, hein, puisque... Du côté de l'Élysée, on disait non, ça n'est pas possible de mettre un gouvernement NFP à Matignon, enfin un gouvernement parce qu'il y aura des ministres et les filles et que du coup les autres partis ne seront pas d'accord et donc il y aura une motion de censure et donc ce gouvernement va tomber. Mélenchon a dit bon, bah chiche, on ne mettra pas de ministres et les filles dans ce cas-là. Eh bien, bah non, ça n'a pas suffi au président Macron et donc il a écrit dans un communiqué officiel non, je ne nommerai pas un Premier ministre. NFP à Matignon, ça a le mérite d'être clair. Alors, la question qu'on se pose derrière, c'est, alors ok, alors qu'est-ce qu'on met à la place ? Eh bien, on ne sait pas. On n'en a même aucune idée. Mais alors, aucune de chez aucune. Donc on n'est vraiment absolument pas avancé. Voilà, Libération dénonce ce mépris, rappelant que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête, hein, aux législatives, voilà. Macron crée un bazar sans nom, estime le journal. Ce qui est intéressant, c'est que le Figaro se félicite. Bah oui, Figaro, journal plutôt conservateur, plutôt de droite, et qui ne voit pas forcément d'un très bon œil l'arrivée de la gauche, et notamment du NFP, au pouvoir. Et donc le Figaro se félicite. En tout cas, un éditorialiste du Figaro se félicite. Et le Figaro, dans la foulée, dit « Ah bah, mais il n'y a aucune autre solution.
» C'est excellent.
Donc, Figaro écrit noir sur blanc. Bon, vraiment, c'est ouais, GG, c'est super, bravo. Bon, sauf qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est très intéressant. Alors, quand je dis un éditorialiste du Figaro se félicite, vous verrez que dans le même journal, le Figaro, vous avez un éditorialiste qui dit « Ouais, c'est formidable, la gauche n'arrive pas au pouvoir. » Et un journaliste du Figaro, genre une page plus loin, qui dit « Ben, ouais, normalement, c'est la gauche qu'il aurait fallu nommer. » Dans le même journal. C'est ce que j'essaie de vous expliquer parfois. Un journal, ça n'est pas monolithique. Vous avez une couleur globale. Mais parfois, les journalistes entre eux ne sont pas d'accord. Voilà, notamment sur cette question, vous verrez. Donc, un lecteur du Figaro aura les deux arguments, mais dans le même journal. Et ça, je trouve ça assez intéressant. L'Humanité, bon, bah, dénonce ce nouveau coup de force de Matignon, hein, le coup d'État permanent. C'est vrai que ça pose des questions. Les Français ont voté et il se passe rien. Voilà. Le Monde se penche sur... L'une des conséquences de l'absence de gouvernement, on a un gouvernement, mais un gouvernement démissionnaire, un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Ils sont là, ils ne sont pas là. Hein. Certains parlent de ministres fantômes, de ministres zombies vivants et morts en même temps. Donc, c'est des ministres qui vaguement font des trucs, mais qui ne peuvent pas prendre de décisions, hein, politiques et lancer de nouvelles initiatives. Par exemple, là, on a une rentrée scolaire inédite, ça n'est jamais arrivé, sans ministre de l'Éducation, sans ministre de l'Éducation réellement en poste, quoi. Donc tout est un petit peu gelé. Et imaginez ça, ça vaut aussi pour l'armée, pour la culture, pour etc. Donc là, par exemple, une rentrée scolaire inédite sans cap politique, Le Monde se penche dessus et sur ses conséquences. Merci la presse écrite, parce que la presse écrite nous emmène vers des horizons, parfois des actualités que bien, tous les médias n'évoquent pas. Et donc là, on a un conflit oublié, un conflit loin des yeux. Est-ce que vous entendez parler souvent dans les médias que vous consommez du Soudan, de la guerre au Soudan, qui dure depuis le 15 avril 2023, qui a fait 150 000 morts, qui a fait plus d'un million de déplacés. Voilà. Ben, pas trop. Eh bien, La Croix consacre un dossier spécial et sa une ce matin au Soudan pour nous parler de cette guerre dont personne ne parle. Voilà. Donc, merci La Croix. Et ben, La Croix essaie d'expliquer ce conflit. Et moi, je ne connaissais pas les tenants et aboutissants de ce conflit. Et grâce à La Croix, eh bien, j'ai compris. Voilà. Donc, on le lira ensemble. Je vous laisse répondre à un prévisible qui vient d'écrire un message pour la première fois. Je vous laisse échanger avec lui. On se penchera notamment sur l'enlisement d'une guerre nourrie par des soutiens étrangers. On continue le sommaire. Après, on en parlera ensemble. Là, je vais vite. Hier, vous me disiez, mais Samuel, pourquoi tu ne parles pas de l'arrestation du PDG de Telegram à Paris, Pavel Durov ? Et bon, j'attendais un article un peu clair. Je trouvais que tout n'était pas très, très clair. Je l'ai trouvé dans Le Monde, donc je vous l'ai mis de côté. Voilà. Pourquoi le PDG de Telegram a été arrêté à Paris ? Qu'est-ce qui lui est reproché par la justice française ? Voilà, c'est assez intéressant et Le Monde nous l'explique très clairement avec un article et un édito également. Il y a Baudos qui dit c'est l'actualité la plus intéressante. Non, c'est celle-là, c'est celle qui arrive à l'air. Le vieux schnock que je suis dénonce depuis des lustres le fait qu'un métro comme le métro de la ville de Paris n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap. Voilà. Hein, on est dans un pays les plus riches au monde, dans une ville qui est riche, qui s'appelle le Paris, voilà, où il n'y a pas d'argent pour que les personnes en situation de handicap puissent prendre le métro. Voilà. Moi, je trouve ça scandaleux. Voilà. Et qu'est-ce que je lis ce matin dans Le Parisien ? Eh bien, il y a une initiative politique, pour le coup. C'est la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui propose de rendre le réseau de métro parisien praticable aux personnes en situation de handicap. Alors, c'est un énorme chantier hein. D'ici 20 ans, avec un chantier de 20 milliards d'euros. À mon avis, c'est plus important que ça, d'ailleurs, le défi du métro pour tous. Alors, est-ce que c'est une initiative politique en mode pipeau pour faire un petit peu de la com ? Voilà. Est-ce que ça va être suivi des faits ? Qu'est-ce qu'il y a dans cet appel de Valérie Pécresse, voilà, qui est prête à mettre un tiers du budget ? C'est-à-dire que le reste du budget, d'où il vient ? Bon, ben, je spoil, elle demande que ce soit la mairie de Paris et l'État qui mettent au pot. Quelle est la réaction de la mairie de Paris ? Pardon, c'est assez intéressant. Donc, voilà, le métro 100% accessible banco, je dis bravo parce qu'au moins, on en parle. Moi, je ne comprends pas que ce scandale ne soit pas plus souvent dénoncé, quoi. Sans compter qu'un métro parisien accessible aux personnes en situation de handicap, c'est aussi un métro plus accessible aux personnes les plus âgées, aux mamans avec des enfants en bas âge, des poussettes, etc. Quoi. Donc, merci le Parisien pour ça. Pour moi, c'est l'information la plus intéressante et la plus importante ce matin. Enfin, parmi les plus, puisque je viens de parler du Soudan, par exemple. Vous savez que moi, je prête un intérêt tout particulier aux Jeux paralympiques et je souhaite ardemment le succès de ces Jeux paralympiques justement pour mettre la question du handicap en lumière. Et bah, ça s'annonce quand même bien, sous de bons auspices. Ouais, on va attendre bien sûr qu'ils se déroulent, comme on l'a fait pour les Jeux olympiques. Mais voilà, les billets ont été vendus en masse. Ça semble plutôt la préparation bien se dérouler. La cérémonie semble sympa. Voilà. Tous les feux sont ouverts. Je vous lirai un article du Figaro sur cette question. Et j'espère que tous ensemble, puisqu'on va participer en allant applaudir les athlètes ou en regardant tout ça à la télé, on va tous participer à notre niveau, si on le souhaite, au succès de ces Jeux paralympiques. À mon petit niveau, je le ferai. Voilà pour le petit sommaire. Il y avait des nouveaux, je l'ai vu tout à l'heure avec quelqu'un qui disait un truc intéressant / étrange dans le chat. Je pense que vous lui avez répondu. Là, maintenant, on va prendre le temps de développer tout ça pendant 2 heures. Voilà, je vous lis un petit peu et on démarre cette revue de presse qui va commencer par la politique. Alors, tu joues pas à Valo ? Alex, c'est cet après-midi, Valo. Le matin, c'est l'actu. Enfin, on fait un truc ici. On fait de la pole dance aussi. Je donne des cours de pole dance aussi. Mais ça, il n'y a pas de programme précis. C'est au feeling. sur Radio FF depuis Belle Lurette, dit Duduche sur le métro accessible aux personnes en situation de handicap. Oui, bien sûr. Merci Larloul pour le message. Merci à toi. Merci Bobo Dev, comment vas-tu ? Merci pour le 29e mois. La pole dance, c'est le soir pour les abonnés généreux. Exactement, Réunis qui lui a sa carte de fidélité. T'en as des coups de tampon sous ta carte, mon ami. Hein ? Ouais. Ouais. Non, l'arc Elden Ring n'est pas terminé, je vais reprendre, mais là je suis sur un boss qui est dur. Qu'a dit Macron sur NFP ? Axanas, on va commencer par ça dans quelques secondes. Merci pour ton message au Tarsi qui nous dit j'ai fait l'aigri comme beaucoup de Français sur les JO. Voilà, finalement, tu as été hypé comme beaucoup d'entre nous et j'ai juste hâte maintenant de découvrir les parrains. Tu as bien raison. Il y a Cyril qui dit j'ai une nièce qui fait de la pole dance si tu veux des cours. Alors non, ça va aller. Les propositions pourraient être mal comprises par certains esprits. Dans le chat, donc je vais non, sache que je suis par ailleurs un grand maître de la pole dance, hein. J'ai fait des compétitions internationales, j'ai gagné un championnat local à Créteil il y a quelques années déjà, donc voilà, je n'ai pas besoin de cours et voilà. Mais merci de la proposition, en tout cas c'est très gentil. Il y en a qui vivent leur meilleure vie, Roubouze et moi qui sont en train de faire des crêpes, là, quel bonheur. Salut Emma Kumbay, merci pour le message. Moi, mon régal, c'est lire le chat, c'est pas lire les journaux, excusez-moi. On dit plus pole dance, mais France travaille. Elle est pointue, elle est technique. Elle est technique. Allez, on la valide. Hein ? Bon, vous êtes prêts pour la revue de presse ? On y go ? C'est parti ? Allez, c'est parti. Bon, on va parler de politique, les amis. Alors, où on en est ? Hein, je ne sais plus combien de dizaines de jours après les législatives. 40 jours, 50 jours, je ne sais plus. De la situation politique en France, eh bien, on en est nulle part. On va commencer par l'article du Parisien. On est toujours dans l'impasse. Je lis, on résume, on ira même peut-être lire le communiqué de l'Élysée que, d'ailleurs, un des modos m'a envoyé hier soir, très gentiment d'ailleurs. Hein, je me demande, c'est pas toi mon ami Jules ? Je me demande, c'est pas Julot. Le coup de Jean-Luc Mélenchon ce week-end aura donc échoué. Je vous rappelle le coup de Jean-Luc Mélenchon ce week-end, puisqu'il avait entendu que parmi les arguments de Macron pour ne pas mettre un gouvernement de gauche NFP au pouvoir, il y avait celui-ci. Non, vous comprenez, on ne peut pas mettre de ministre LFI, sinon les autres partis ne vont pas être contents. Ils vont voter une motion de censure, le gouvernement va se casser la gueule au bout de deux jours. Jean-Luc Mélenchon a dit ce week-end, bon, bah, ok, pas de problème, chiche, on ne met pas de ministre LFI. On va soutenir le gouvernement, mais on ne met pas de ministre LFI. Et vous faites quoi maintenant ? Donc ça, c'était ce qu'il a tenté ce week-end, et ça n'a pas suffi. Le coup de Jean-Luc Mélenchon n'aura donc pas suffi. Il a échoué ce lundi, donc c'était hier. Emmanuel Macron a officiellement exclu de nommer Lucie Castet à Matignon, tout en n'étirant encore le calendrier. Bon. Le président de la République a constaté qu'un gouvernement... Alors ça, c'est le communiqué. On va essayer de le trouver, le communiqué, parce que c'est encore mieux, parce que là, le Parisien cite le communiqué de l'Élysée. Ah, bah, de toute façon, je l'ai en DM, moi. Parce que je crois que Jules me l'a envoyé hier soir. C'est très gentil, d'ailleurs. Jules. Ouais, merci, Jules. GG. Hey. J'ai quand même une commune de modos de fou. Hein. Merci, les modos. Donc ça, c'est le communiqué de l'Élysée. Et alors, moi, j'attendais impatiemment une intervention télévisé, j'étais prêt à la streamer d'ailleurs pour la React. Et finalement, il a choisi, le président Macron, de communiquer par un simple communiqué écrit, comme pour, d'ailleurs le Parisien le dit d'ailleurs, comme finalement pour banaliser le truc. Genre, je veux même pas parler à la télé de ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, lisons ce communiqué de l'Élysée. Le président de la République a reçu vendredi et lundi, en vue de la nomination d'un Premier ministre, les responsables des partis représentés au Parlement, ainsi que les présidents des deux chambres. Ça, je vous en ai parlé, c'était vendredi et lundi. Les échanges ont été loyaux, sincères et utiles. Ouais. Il les a reçus, blablabla, ça c'est du blabla. Au terme des consultations, le président a constaté qu'un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l'Alliance regroupant le plus de députés, le Nouveau Front Populaire, donc le président prend acte quand même que le plus gros groupe et le groupe qui a gagné, enfin qui est en tête des législatives, c'est bien le NFP, et bien que ce groupe, même s'il est en tête par le nombre de députés, serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes représentés à l'Assemblée. C'est vrai que le NFP n'a pas de majorité absolue et une majorité relative qui est assez faible. Un tel gouvernement disposerait donc immédiatement d'une majorité de plus de 350 députés contre lui, l'empêchant de fait d'agir compte tenu de l'expression des responsables politiques consultés. La stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Macron ? Oh, j'ai un message de mon papa. Je viens plus. Hop, tout va bien. Chérissez vos proches tant que quand vous les avez. Donc, qu'est-ce qu'il dit le président Macron ? Bon, effectivement, le groupe politique est arrivé en tête aux législatives, c'est bien la gauche. Mais je constate par mes échanges avec les autres formations politiques, hein, et puis qui est très très prévenant, le chef de l'État, que a priori les autres, je dis bien a priori. Et j'insiste sur l'a priori, les autres formations politiques seraient prêtes à voter la censure, c'est-à-dire à virer ce gouvernement aussitôt formé. Je dis bien a priori. Parce qu'en fait, le président, vous imaginez bien que le président de la République n'a pas discuté avec chacun des députés. Première remarque hein, de l'Assemblée. Il a discuté avec les chefs de parti, hein, les chefs de groupe. Voilà. Et donc, en fait, pardon, hein. Ça, c'est mon analyse. Hein. Ce n'est pas un fait. Vous pouvez le discuter. Il n'en sait rien que la motion de censure serait votée. Pardon hein, de le dire. Peut-être que je vais trop loin dans l'analyse, mais il n'en sait rien. Hein. Il ne sait pas ce que fera chaque député. Vous savez qu'il y a des consignes de groupe parlementaire qui sont données. Mais les députés, ils font ce qu'ils veulent. Et parfois, les consignes sont suivies, parfois, elles ne sont pas suivies. Hein. Voilà. Et donc, il ne sait pas ce que fera chaque député. Et deux, il ne sait pas ce que le NFP, s'il arrivait au pouvoir, au gouvernement, proposerait comme politique. Hein puisqu'on connaît le programme du NFP, celui qui a été présenté aux législatives, mais Lucie Casta a clairement dit qu'elle avait bien conscience qu'elle n'avait pas une majorité absolue à l'Assemblée et que donc elle allait proposer un programme aménagé hein, pour justement faire passer les textes en essayant de faire qu'ils soient votés et ne pas heurter la totalité du Parlement pour éviter une motion de censure. Hein, parce que ça veut un peu de avoir les pieds sur terre. Quoi. Elle l'a dit. Ouais. Donc, mais lui, il dit, moi, je suis allé voir les autres partis et donc, ils vont voter contre, donc ça n'est pas une solution. Bon, je trouve que c'est un sacré raccourci. J'estime que c'est un raccourci. Et pourtant, on n'est pas à Mario Kart. Alors, je continue. Les échanges avec le groupe Liot et les partis EPR, alors EPR c'est les macronistes, Modem, Horizon, les radicaux et UDI ont dessiné des voies de coalition et de travail entre différentes sensibilités politiques. Ces groupes se sont montrés ouverts à soutenir un gouvernement dirigé par une personnalité qui ne serait pas issue de leur rang. Donc en gros, il dit que du côté du centre, centre-droit, centre-gauche, il a rencontré des gens qui étaient plutôt OK pour coopérer avec d'autres. Avec qui ? Ben, Macron dit, ben, je sais pas, moi. Putain, c'est précis. Avec le Parti Socialiste, avec les écologistes, avec les communistes. Mais il dit, ah, mais ceux-là n'ont à ce stade pas proposé de chemin pour coopérer avec les autres forces politiques. Ben non, ils sont dans le NFP et ils disent, nous, on veut pas se désolidariser des LFI. Hein ? Donc, il dit, il leur appartient désormais de le faire. Donc, ah, ok. Alors, il dit, moi, je vois qu'au centre, centre droit, centre gauche, il y a des gens quand même qui seraient prêts à faire des trucs, peut-être avec des gens qui pourraient être les socialistes, les communistes, les écologistes. Pour l'instant, ils n'ont rien proposé. Ben non, ils t'ont déjà dit qu'ils ne voulaient rien proposer, ils ne voulaient pas gouverner avec toi. Il dit, ah ben, c'est quand même à eux de le faire.
Ok.
La droite républicaine, alors parlons de la droite maintenant, a défini ses lignes rouges, détaillé son pacte législatif sans s'engager à un vote du budget ni à un soutien, une participation au gouvernement. Oui, la droite ne veut pas entendre parler d'une alliance avec le président Macron. Hein, dès demain, mardi, donc c'est aujourd'hui, alors ça c'est, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Un nouveau cycle de consultation. Allons bon. Avec les responsables des partis, des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'État et de la République reprendra. Il y a deux infos là. Les négociations vont reprendre. Alors là, elles n'ont absolument pas abouti. Donc on reprend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce qui peut se passer ? Rien, a priori. Mais aussi avec des... C'est très mystérieux. Des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'État et de la République reprendra. Qui sont ces personnalités ? On ne sait pas. C'est mystérieux pour l'instant. Là, je ne troll pas, hein, c'est une vraie analyse. Hein. En ces temps inédits dans la 5e, où les attentes des Français et des Françaises sont fortes, le chef de l'État, c'est marrant, chef avec un grand C. Ça, c'est... Non, c'est petit C, chef de l'État. État grand E, chef petit C. Bon, je ne sais pas qui a écrit ça. Appelle, c'est un communiqué de l'Église et pourtant. Appelle l'ensemble, c'est important les capitales dans la langue française. Appelle président de la République, petit P, République grand R. Par exemple, chef de l'État, petit c à chef, grand E à État. C'est pas des détails, en fait. Hein. On n'est pas le chef de l'État, ça va aller, quoi. C'est, quel que soit le président, on n'écrit pas chef avec un grand C, quoi. C'est pas une dictature, non plus. Appelle l'ensemble des responsables politiques à se hisser à la hauteur du moment en faisant preuve d'esprit de responsabilité. Ok, Bernard Pivot. Non, c'est important. Le président de la République déclare, c'est une faute, c'est petit p, c'est le culte du chef ou quoi cette histoire ? Ma responsabilité, bientôt ils vont mettre un grand R à responsabilité, vous allez voir. Et que le pays ne soit ni bloqué ni affaibli, les partis politiques du gouvernement ne doivent pas oublier les circonstances exceptionnelles d'élection de leurs députés au second tour, blablabla. Ce vote est obligé. Bon, je ne suis pas convaincu. Merci Not Bad Aim pour le deuxième mois. Merci Curélien pour le deuxième mois. Ouais. D'où ce titre du Parisien. Je ne suis pas le seul à ne pas être convaincu. Toujours dans l'impasse. D'où d'ailleurs toutes les analyses des journaux ce matin, quelle que soit leur sensibilité. Des journaux libéraux, conservateurs, de droite, de gauche, ils disent tous la même chose. On est coincé. Voilà. Lisons les analyses ce matin. Libération parle d'un mépris. Hein, mépris pour les électeurs qui ont voté pour le NFP. Emmanuel Macron a annoncé lundi soir exclure l'option d'un gouvernement Nouveau Front Populaire au nom de la stabilité institutionnelle. Qu'écrit Dove Alphon dans son édito ce matin. Merci Papy Gatograph. Le communiqué d'Emmanuel Macron, qu'on vient de lire ensemble, hein, faut toujours aller à la source, annonçant tranquillou écarter la possibilité d'un gouvernement NFP, le mouvement arrivé en tête aux législatives, rappelle Libération, est une atteinte au principe démocratique. Avec sa prétention d'agir au nom de la stabilité institutionnelle de notre pays, Emmanuel Macron frise le ridicule. C'est lui qui a déstabilisé le pays avec une dissolution surprise de l'Assemblée nationale sans aucune concertation. Voilà. Je remarque d'ailleurs que Macron est allé demander au RN ce qu'il ferait s'il y avait un gouvernement NFP. Donc, je vais encore faire du mauvais esprit. Appeler aux voix de gauche pour faire un barrage républicain au Rassemblement national, ça c'est OK. Hein ? Électeurs de gauche, bougez-vous le cul, il faut absolument faire barrage au RN. Donc, quand vous n'avez pas de candidat de gauche en tête, ouais, mais il faut quand même voter pour les autres pour faire barrage au RN. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va voir le RN et on dit, bon les gars, si jamais je mets un gouvernement de gauche à la tête de l'État, vous allez le censurer, hein ? Vous allez voter contre, hein, c'est ça, hein ? Je sais pas. La démarche est un peu bizarre, quoi. Si je puis me permettre. Mais c'est pas du mauvais esprit. Je suis vraiment très surpris par ce qui se passe. Hein, Macron crée un bazar sans nom. Bon, estime Libération. Lisons l'article de Libé. Ni les 50 jours écoulés depuis le second tour des législatives. 50 jours. C'est un record, hein, c'est jamais arrivé sous la 5e. Ça aussi, c'est un fait. Hein. Quelqu'un dans le chat vient de me dire... gentiment d'ailleurs. Sam, tu extrapoles, tu as une vision en surface, tombe pas dans les biais faciles. SkyMix. C'est factuel ce que je dis. Hein. 50 jours après une élection sans gouvernement, ça n'est jamais arrivé. très factuel, ça. Moi, je trouve quelque chose qui ne va pas, là. Hein? Je rappelle que c'est le président Macron qui a dissous l'Assemblée. Hein? La pire décision de dissolution de l'histoire de la Ve République. Le gars, il a une majorité relative. Voilà, parce qu'il ne s'est pas trop mouillé pour la campagne législative pour son deuxième mandat. Il a une majorité relative qui, bon an, mal an, qu'à un cas, bon, il arrive à faire le job entre les gouvernements Borne et Gabriel Attal, quoi. Et il se dit, bon, c'est un peu compliqué, mais je vais tenter un truc. Voilà, je vais dissoudre l'Assemblée et un petit coup de poker, là. Voilà, et on ne sait jamais, sur un malentendu. Ouais. Et puis, il arrive ce que tout le monde avait prévu, c'est-à-dire qu'en fait, il se prend une ratatinade aux élections et il arrive et il affaiblit encore plus son ex-majorité qui devient une minorité, quoi. Voilà. Ni fait ni affaire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez à un moment c'est pas un biais, ça. C'est, politiquement, c'est boulette sur boulette, c'est connerie sur connerie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pardon, je ferme la parenthèse. Ni les 50 jours écoulés depuis le second tour de la législative, ni le grand oral qu'il a fait passer vendredi à la première ministre du NFP, ni le coup habile de Jean-Luc Mélenchon suggérant un possible soutien sans participation de la France insoumise à un gouvernement castet, n'ont infléchi la position présidentielle. Reparti pour un tour, les mêmes responsables politiques sont donc convoqués dès aujourd'hui à un second round de consultation, cette fois élargie à de mystérieuses, vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis, personnalité se distinguant par l'espérance du service de l'État et de la République. L'Élysée ne précise pas le calendrier de ces entretiens, mais vu l'agenda présidentiel, la désignation d'un Premier ministre pourrait encore être reportée de plusieurs jours. Les représentants du NFP qui voient leur présidente, leur prétendante, pardon, écartée, accepteront-ils de retourner à l'Élysée ? Voilà, moi j'ai cru lire que non. Mais je crois qu'on le verra dans un autre article. Je crois que les partis de gauche ont dit « Nous, on ne retournera pas à l'Élysée pour discuter avec vous, puisque de toute façon, on est exclu du jeu. » quoi. En cas d'une solution institutionnellement stable ou d'un miracle écrit libé vu le paysage politique en mille morceaux, Macron croit, lui, encore possible de dégoter un autre Premier ministre immunisé contre tout risque de censure. La presse nous dit que Macron croit qu'il est possible de trouver un Premier ministre qui ne soit pas censuré. Moi, je n'y crois pas, mais après, je peux totalement me tromper dans l'analyse. Merci, Mr. Coban, pour le soutien. Je vous lis un petit peu, puis après, on lit le Figaro là-dessus. Figaro qui a une autre position, mais qui est intéressante. Voilà, ils ont dit qu'ils ne reviendraient à l'Élysée, les partis de gauche, que pour parler du gouvernement avec Mme Castel, Nagayo Sugarsan. Tu as raison, c'est ce qu'on lira un peu plus loin. Tu as raison. Ça n'existe pas. Il y a Noah Delis qui me dit « Pourquoi ne pas accepter un Premier ministre non encarté, neutre ?» Ça n'existe pas. Une personnalité neutre. Tu es toujours de quelque part. Tu as toujours, quand tu es en capacité d'exercer de telles responsabilités, de telles fonctions, bah tu as une histoire, tu as fait des choix, tu as des valeurs. Même si tu n'es pas encarté dans un parti, tu as forcément une couleur, tu as des positions. Voilà. Personne n'est neutre. Ça n'existe pas. Heureusement d'ailleurs. On a tous des idées, des positions, des valeurs en fait. Ça, c'est un mirage, hein, la neutralité en politique. C'est déjà un positionnement politique, d'ailleurs. Il gagne du temps, mais pourquoi ? Quel est le but ? Mastabé, j'aimerais le savoir. Je n'ai pas la réponse. Je vous lis. Après, il y a des messages que je ne comprends pas, donc je ne peux pas. Il y a des messages, je les comprends. Il y a Shinobi qui dit il oublie encore le Front Républicain. Qui ? Ah, si, tu parles du président Macron. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je casse tout avec ma table de mixage, là. Peut-être qu'il temporise jusqu'à la prochaine dissolution. Alors, c'est intéressant ce que dit Demoiselle Sauveur. Qu'est-ce qu'il fait ? Et Demoiselle Sauveur propose peut-être qu'il temporise jusqu'à la prochaine dissolution. Ce serait un scandale. La prochaine dissolution, c'est dans un an. Hein? Enfin, maintenant, c'est dans, ben dans, c'est, c'était quand en législative ? Dans 10 mois, bref. Puisqu'en fait, il y a un cool-down entre deux dissolutions, il peut pas c'est dans 10 mois. Il ne peut pas dissoudre moins d'un an. Il ne peut pas y avoir moins d'un an entre deux dissolutions. Voilà. Ça voudrait dire, si on partait sur cette hypothèse, que pendant un an, il n'y aurait pas de gouvernement. Il y aurait un gouvernement démissionnaire, mais qui serait un gouvernement qui expédie les affaires courantes qui ne gouvernerait pas, en fait. Ça n'est pas possible. Les Français ont voté. Les Français ont voté, en fait. Un pays qui, pendant un an, n'a pas de gouvernement, conséquence du vote des Français, on sort la démocratie. On sort la démocratie. Donc ça, ça n'est pas possible. En Belgique, ça arrive souvent MDR. Oui, mais enfin bon, l'exemple belge là-dessus, Kalouche. Hein, hein? Pardon, hein, les gens, moi j'adore la Belgique, mais arrêtez quoi. Hein? Il y a plein de choses sympas dont on pourrait s'inspirer en Belgique, mais pas ça, en vrai. Ainsi, l'idéal du pouvoir, c'est la vacance du pouvoir. Si l'idéal du pouvoir, c'est qu'il n'y ait pas de pouvoir, ça veut dire qu'un pays, en gros, il est. Voilà, quoi qu'il arrive, il n'a pas de gouvernant, on laisse aller. S'il y a des crises, bon, bon, on verra bien. S'il y a des mesures à prendre dans tel ou tel domaine, parce que ben, le monde évolue, notre pays évolue, il se passe des choses, bon, c'est pas si grave. Mettons personne, plutôt. Bah ben, non, c'est pas tellement. C'est pas un idéal démocratique, quoi. Ah non, mais c'est pas, je très bien la Belgique, mais excusez-moi les amis, c'est pas un exemple. Ah, merci Roduc, qui est un peu sérieux. Tout à fait d'accord avec toi, Samuel, les crises politiques en Belgique, ça ne nous fait pas marrer. Mais bien sûr, mais c'est absolument pas un idéal. En plus, la Belgique, c'est un pays qui est beaucoup plus décentralisé que la France, en plus. Donc... qui peut beaucoup plus facilement s'autogérer que nous. Quoi. Ah voilà, à Milcar, les régions sont beaucoup plus autonomes. En Belgique, c'est donc incomparable. Merci. Voilà. Libre Ski, petit, la Belgique est décentralisée, tu oublies ce paramètre. Bah, tu vois, je ne l'oublie pas. Vous avez raison, complètement raison. Nous arrêtez de comparer la Belgique avec la France, en fait. Les pays sont très très différents dans leur fonctionnement. On continue. Alors, Le Figaro. Le Figaro se félicite de ça. Alors, Libération et l'Humanité, on le verra, ben, se désolent que le président Macron ne veuille pas mettre le NFP au pouvoir. Et Le Figaro s'en réjouit. Enfin, Le Figaro, non. Un éditorialiste du Figaro. Parce qu'un journal, c'est pluriel. Un journal a une couleur politique, mais je le dis souvent, ne croyez pas qu'un journal, c'est monolithique. Il y a des gens dans un journal qui ne sont pas d'accord entre eux, et c'est le cas ce matin dans Le Figaro. Alors, lisons... l'édito de Vincent Trémollet de Villers qui, lui, se félicite de cette situation. « Soulagement, il écrit, et confusion. Soulagement, écrit-il, rappelons que la gauche, dit-il, n'a réuni que 28% des suffrages. Ouais. » Bon, l'éditorialiste oublie de rappeler que les autres ont fait moins. Moins de 200 députés. Ouais. L'éditorialiste oublie de rappeler que les autres ont fait encore moins. Pour une coalition de 4 groupes parlementaires. Où est la majorité proclamée ? Personne dit qu'il y a une majorité. La gauche ne dit pas on a une majorité. C'est faux. Ils disent on est arrivé en tête, donc c'est à nous peut-être d'essayer le truc et d'amener d'autres députés. Non, elle ne dit pas qu'elle... elle ne dit pas qu'elle a la majorité. Elle n'a pas la majorité. Elle n'a pas la majorité, elle ne peut pas le dire. Elle n'a même pas une majorité relative. Suffisante. Mais non, mais là, non. Castet, qui est quand même la représentante du NFP dans cette histoire, ne le dit pas. Mais Mélenchon, c'est une autre histoire. Mélenchon, il a dit au soir du deuxième tour, il a dit « On a gagné, on va appliquer notre programme, tout notre programme, rien que le programme. » Bon, bah, dès ce soir-là, je vous ai dit « Non, ça ne marche pas comme ça. Vous rappelez, rappelez-vous. Hein, je vous l'ai dit. Jean-Luc Mélenchon, il dit ce qu'il veut, mais c'est une énorme connerie. Hein. » Quand on est en tête, certes, mais avec une majorité relative aussi faible, on ne dit pas on a gagné, on va appliquer notre programme, rien que notre programme. Ça n'a aucun sens. Je vous l'ai dit. Le soir du deuxième tour, je vous l'ai dit. Voilà. Bon, je ne change pas d'avis là-dessus. Voilà. Mais ne confondez pas les prises de position pas très rationnelles de certains, c'est un peu la politique, quoi, avec la réalité. Bon, Lucie Castet, quand vous regardez le détail des déclarations de Lucie Castet, c'est quand même elle qui est supposée devenir première ministre. Elle ne dit pas on a une majorité. Elle dit clairement on a une majorité relative qui est très faible et que ben, il faudra, elle le dit hein, noir sur blanc, ben, il faudra trouver des textes, des réformes où on pourra aussi être soutenu par d'autres députés, d'autres partis. Hein, ne confondez pas tout. Hein, voilà. De la même façon qu'un journal n'est pas monolithique, un camp politique n'est pas monolithique non plus. Hein, hein. Donc n'allez pas chercher les déclarations des uns et des autres. Et s'ils disent des conneries, c'est pas ma faute. Hein. Mais aujourd'hui, la gauche sait qu'elle n'a pas de majorité. À part les idiots, les abrutis ou les gens qui font de la politique politicienne, personne à gauche ne pense qu'il y a une majorité. C'est une majorité relative très faible, hein, qui ne suffit pas. Voilà. En revanche, ils sont arrivés en tête. Donc, et moi, mon sentiment, c'est que la logique des institutions et la logique démocratique voudraient que même si la coalition arrivait en tête à une majorité relative très faible, bien moi, je pense que c'est à elle qu'incombe la responsabilité d'essayer de former un gouvernement et d'affronter une éventuelle censure du reste de l'Assemblée et de tenter de faire passer des textes. Voilà. Avec une forme d'intelligence politique, prenant conscience de sa fragilité, en disant, bon, on va pas appliquer notre programme, tout notre programme, rien que notre programme, comme certains disaient, ce qui est complètement con, voilà, en disant, bon, bah, on a bien conscience de notre fragilité politique, donc voilà, on est en tête, c'est à nous d'y aller, bon, on va essayer de faire un truc. Moi, voilà mon sentiment. Voilà. Donc, je reviens au Figaro. Donc, qui rappelle que la gauche n'a eu que 28% des suffrages, qu'ils ont moins de 200 députés, mais je dis, oui, très très bien, mais alors les autres, ils ont encore moins. Hein, depuis longtemps, la gauche a le génie de l'agitation minoritaire, écrit le Figaro, enfin, en tout cas, cet éditorialiste. Elle voulait donc, quoi qu'il en coûte, imposer Lucie Castet à Matignon et ses propositions dévastatrices. Donc, lui, il parle du programme du NFP. Elle a échoué, c'est une bonne chose. Bon, bah, ce monsieur, il est très très clair. Il trouve que c'est très très bien que Macron, quelque part, ait fait barrage à la gauche. La France évite une catastrophe, c'est encore plus clair. Mais rien, malheureusement, n'est réglé. Donc, le monsieur, il dit, c'est formidable, mais moi, j'avoue qu'on n'est pas plus avancé. Bon, je continue l'édito. Le président laisse la gestion des affaires courantes à des ministres zombies. Ce gouvernement démissionnaire durable, c'est un sidérant oxymore institutionnel, un gouvernement démissionnaire durable. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Démocratiquement, ça n'a aucun sens. C'est un oxymore, il a raison, le monsieur. Ce que nous vivons depuis 42 jours, c'est l'histoire d'un homme qui a creusé un trou pour y faire chuter ses adversaires, cet homme, c'est Macron, mais qui est tombé dedans. Ah bah oui. Depuis, il exige que ses opposants l'aident à s'en extraire. Voilà. J'ai fait une connerie, bon, maintenant, à vous de régler le truc. Partons ! Hein, je ne fais pas de l'anti-macronisme primaire. Mais Macron a fait une boulette et aujourd'hui, il demande au parti de la régler. Quoi. C'est ça, l'histoire. Hein ? Parfois, il faut mettre des mots simples sur des situations compliquées. C'est ça, l'histoire. Le président cherche la prise salutaire pour sortir du trou, donc. Hein. L'intérêt du pays exige maintenant qu'on la trouve et vite. Qu'est-ce que dit cet éditoriste du Figaro ? Il dit, bon, formidable, merci Macron d'avoir fait barrage à la gauche. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que ce journaliste propose une solution en disant, bon, alors le président... Moi, je pense que l'honnêteté de ce journaliste, pardon, je juge un peu, mais gentiment, hein, l'honnêteté de ce journaliste aurait été de dire, OK, moi, je suis un journaliste de droite, je trouve ça formidable que le président Macron fait barrage à la gauche. OK. Mais l'honnêteté, ça aurait été de dire, alors, puisque... voilà la situation, bah voilà la voie qui est possible. Voilà la solution qui est possible. Puisque là, ce journaliste se félicite qu'une solution, que la gauche arrive au pouvoir, était empêchée, et il s'en félicite. Bah, normalement, il devrait dire, bah voilà la solution. Hein? Bah, je sais pas. Il dit rien. Il dit rien parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je vous le disais, un journal n'est pas monolithique. Et un peu plus tard, un peu plus loin, page 2, dans le Figaro, vous avez un journaliste, des journalistes qui s'appellent Claire Conru et Tristan Kinomopoil, qui disent pas du tout la même chose. Ils ne sont pas du tout d'accord. Voilà, et ne pensez pas qu'une rédaction, c'est monolithique. Merci FDLC46. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Depuis la défaite de son camp en juin dernier, le chef de l'État cherche à justifier auprès de l'opinion publique la mise à l'écart du nouveau Front populaire. Exercice délicat, puisque sa première place aux élections législatives anticipées lui confère une légitimité à être chargé de former un gouvernement. Une, un édito, dans l'édito, c'est, je vous rappelle, c'est un article où le journaliste donne son avis et qui dit « Waouh, formidable, le président Macron a fait barrage à la gauche ». Page 2, vous avez deux journalistes qui disent voilà, « Exercice délicat pour le président Macron, puisque la première place de la gauche aux élections législatives, lui, confère une légitimité à être chargé de former un gouvernement ». C'est ce que je vous disais à l'instant. Dans le même journal. Donc oui, le Figaro est un journal plutôt conservateur, plutôt de droite, mais oui, qu'au sein du Figaro, il y a des sensibilités un peu différentes, des analyses un peu différentes. Je trouve ça assez intéressant. Donc le lecteur du Figaro, ce matin, il a un peu les deux idées, s'il fait attention. Voilà. Et ces journalistes du Figaro, ils sont d'accord avec moi en disant que la seule solution démocratique viable serait été de tenter ça, de tenter ce qui est l'espèce de solution logique, hein, puisque la gauche est arrivée en tête, eh bien, même s'ils ont une majorité faible, relative très faible, eh bien, c'est à eux d'avoir la responsabilité de tenter, et peut-être pas de réussir. Après, il faut de l'intelligence politique. Moi, je ne juge pas de ça. Je ne juge pas de l'intelligence politique d'une majorité de gauche qui arriverait au pouvoir et qui aurait conscience de sa faiblesse politique en allant chercher des coalitions, des majorités avec d'autres députés, en faisant des conciliations, en n'appliquant pas l'intégralité, la totalité de son programme, le programme avec le programme, tout le programme, etc. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Ça, je ne préjuge pas de cette intelligence politique-là. Mais je pense que c'est ça qui devrait être tenté. Ah, mais, et puis si ça ne marche pas, eh ben, après, on tente autre chose. Mais d'abord, tenter ça. Voilà. Vous en pensez quoi ? J'ai plus de café. Samuel, pourquoi tu es radiant sur, en journalisme et Artstock faire sur Valorant ? C'est adorable. Étoile, il a une explication là-dessus qui est trop gentille d'ailleurs. Et je l'ai raid hier, Étoile, et puis j'ai dépité d'être aussi nul. Je vous rappelle que mon nouveau pseudo sur Valorant, c'est le PNJ originel. Hein. Je suis passé de The Mister CH. J'ai transformé mon pseudo hier après-midi, tellement j'étais désolé de mon niveau de merde. Et donc maintenant, je m'appelle le PNJ originel. C'est mon vrai pseudo. Sur Valorant, et j'ai Red Étoile après qui a vu le pseudo, qui dit mais non Samuel, t'as commencé le jeu vidéo il y a 6 mois, tu joues avec des mecs qui jouent depuis des années, c'est ton premier FPS, c'est comme si je descendais dans l'octogone avec je sais plus quoi, il me dit. Ça m'a, c'était gentil de dire ça. Et les compromis et l'alliance à l'allemande, par exemple, ça n'est pas vraiment dans l'ADN politique français. Hélas, tu as raison, Splagada. Pour aller plus loin sur cette idée, en fait, on a une nouvelle donne politique en France. Avant, il y avait en gros deux blocs, un bloc de gauche et un bloc de droite, bon, voilà, qui alternaient au pouvoir et bon, qui, le système fonctionnait relativement bien avec la Ve République. Bon. Aujourd'hui, on a plus cette donne politique. On a actuellement, et peut-être que ça va changer dans quelques années, peut-être que dans quelques années, on aura de nouveau deux blocs. Mais là, on a quatre blocs en gros, hein. Et du coup, les institutions ne marchent pas. Là. Eh bien, en fait, ben, c'est tout politique. C'est leur... À un moment, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est tout politique. C'est tout politique, c'est aux élus, c'est aux responsables des partis de s'adapter à cette nouvelle donne politique, hein, et de se comporter différemment pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, comme dans d'autres pays, effectivement, il faut rentrer dans des logiques de coalition, comme en Allemagne, par exemple, où, bah, après la législative, vous avez plusieurs gros blocs. Eh bien, ces blocs discutent entre eux pendant... Ça dure des semaines, c'est très très long. Et puis, ils se disent, bon, bah, on va essayer de se mettre d'accord sur des trucs. Voilà. En ce moment, en Allemagne, vous avez au pouvoir des libéraux, des sociaux-démocrates et des écologistes. Ils n'arrêtent pas de se taper sur la gueule, ils sont d'accord sur rien. D'ailleurs, c'est un enfer. Bon, bah, mais c'est ça, les coalitions. Mais il y a un gouvernement. Voilà. Bon, ça, en France, on ne sait pas faire. Eh bien, il faut apprendre à le faire. Puisqu'on n'a plus deux blocs. Ouais. Donc, c'est de leur responsabilité. Il faut les engueuler un petit peu, les politiques aussi. Hein. D'ailleurs, certains le disent, d'ailleurs. Après, le dire et le faire, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas dépasser les clivages. Les clivages, ils existeront toujours, Pimnet. Mais c'est se mettre d'accord, se mettre autour d'une table et dire, bon, on n'est pas d'accord sur ça. C'est ce qu'on fait, nous, ici. On est ensemble, nous, vous avec moi avec vous, vous ensemble, vous n'êtes pas d'accord, mais on arrive à discuter. Et bien, ils se mettent autour d'une table et ils disent, bon, ben, Écoute, ça, on n'y arrivera jamais. Là, on est complètement d'accord. On est complètement opposé là-dessus. Bon, bah, on met ça de côté, on n'en parle pas. Voilà. Et puis, et ça, par contre, peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'on peut pousser cette réforme-là. Voilà, c'est ça, en fait. C'est le... Donc, c'est à eux de s'adapter. C'est pas à nous. Hein. Nous, on a voté. On a le droit de voter pour qui on veut, quand même. Continuons. L'humanité, bon bah l'humanité, c'est un peu comme Libération, ils sont un peu en colère. Hein, dénonce ce nouveau coup de force de Macron, Emmanuel Macron, et le coup d'État permanent. Bien qu'arrivé en tête aux élections législatives, rappelle Luma, le NFP se voit refuser la charge de former le gouvernement. Emmanuel Macron confirme son déni de démocratie. Il tente, certains disent, ouais, mais Macron, il peut pas discuter, mais oubliez Macron. Dans un gouvernement de cohabitation, puisque Macron n'a pas la majorité, le président, c'est bien pour ça qu'il retarde l'échéance, d'ailleurs, ne sert plus à rien. Hein. Mais Macron n'a pas son mot à dire. Une fois que le gouvernement est en place, Macron, il fera du cinéma comme tous les présidents de cohabitation, Chirac et Mitterrand, l'ont fait avant lui. Hein, il fera un peu de l'esbrouf et du bruit, mais la réalité du pouvoir, elle est transférée au gouvernement dans une période de cohabitation. Et donc, ce sera au gouvernement de mettre en place cette nouvelle philosophie de l'échange, de la discussion, de la concertation, de l'alliance, etc. Le président, il ne sert plus à rien en période de cohabitation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il retarde le moment où il va nommer un gouvernement. Hein. Donc, ceux qui disent que le président Macron est incapable, lui, d'écouter, d'échanger, de transiger, de... Peu importe. Dès que le gouvernement sera nommé, son pouvoir sera extrêmement affaibli. Comme toujours en période de cohabitation, d'ailleurs. C'est un grand classique. Voilà. Donc, oubliez. Alors, est-ce que c'est pas pour ça qu'il retarde la nomination du gouvernement? Je ne sais pas. Je continue l'humain. Le président Macron tente de diviser le NFP en tendant la main aux socialistes, aux écologistes, aux communistes, mais ces derniers refusent. Emmanuel Macron dit reprendre un cycle de consultation aujourd'hui. Voilà. Le nouveau Front populaire refuse d'y participer. Hein. On va voir ce qui va se passer. Hein, le président Macron, il attend, il espère toujours que les socialistes et les écologistes se désolidarisent des LFI. Pour l'instant, ça ne marche pas. Nous attendons du président de la République qu'il agisse en garant des institutions en tirant la seule conclusion politique d'un scrutin qu'il a lui-même décidé. Hein. La désignation de Lucie Castet persiste, la candidate de gauche et les quatre chefs de parti. Du côté de la gauche, bon, ben, c'est clair. Ils ont mis du temps à s'entendre avant législative pour créer ce NFP, mais force est de constater qu'ils ont réussi à s'entendre. Ils ont mis du temps pour désigner un nom pour les représenter à Matignon, mais ils ont fini par le trouver, Lucie Castet. Et donc, bon an, mal an, aujourd'hui, au moins, il y a une forme de cohérence au sein de ce NFP, même si vous savez qu'au sein du NFP aussi, il y a des tensions, des divisions, notamment entre LFI et les autres partis, et au sein même d'LFI. Voilà, pour la petite page politique, on en reparlera demain, et puis après-demain, et après-après-demain. Est-ce que théoriquement, on peut rester dans cette situation encore un an? Non, ce serait un déni de démocratie, surréaliste, moumeux, et les Français finiraient par descendre dans la rue, et ils auraient raison. Tu ne peux pas attendre un an après des élections sans en tirer les conséquences politiques. Voilà, ce serait nier la légitimité du vote des Français. Voilà. Donc ça n'est. Alors, au niveau des institutions, rien n'est prévu. Hein. C'est-à-dire que la Constitution de la 5e ne donne pas de délai. Donc techniquement, c'est possible. La Constitution de la 5e ne dit pas quel est le délai maximum que le président devrait respecter pour nommer un gouvernement après des élections. Il n'est pas indiqué par la Constitution. Donc techniquement, il peut attendre un an. Techniquement, mais politiquement, démocratiquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Ça ferait de nous une république bananière, quoi. Voilà. À partir de quand peut-on parler de déni de démocratie? Tout le 17, donc j'ai lu plusieurs constitutionnalistes sur le sujet. Merci Mix pour le 19e mois. Tous s'accordent à dire que, en gros, là maintenant, là, à partir de la rentrée, s'il n'y a pas de gouvernement, on commence à pouvoir parler de déni de démocratie. On est dedans, là. Je ris. J'aime l'humour du chat. Il y a Razorloop qui écrit « Les viewers qui mettent des pavés dans le chat, c'est pas un contrôle noté. »
J'adore.
Je ris.
C'est drôle. C'est drôle. C'est très drôle en vrai.
J'aime bien les pavés, moi. T'imagines ce métier qui met des notes. J'en serais bien capable. Oh, c'est drôle. Oui, on entend des gens derrière moi. Oui, c'est les gars qui font des barbecues de sardines dans la cour. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi ? Je suis pour la liberté des gens, moi. Le mec qui veut faire des barbecues de sardines, il fait des barbecues de sardines. Hein. Il empêche tout l'immeuble, mais bon. Hein. C'est pas criminel. Bon, mais Autumnbird a raison dans le chat, je vais y aller moi. Je vais vous laisser bosser un petit peu. Donc Autumnbird propose un sujet de réflexion, donc voilà, qui est celui-ci. La décision d'Emmanuel Macron de ne pas choisir un Premier ministre est-elle un déni de démocratie? Vous avez une heure. Voilà. Donc moi, ça tombe bien parce que dans une heure, j'ai un rendez-vous. Donc je reviens pour relever les copies vers 11h55. Donc je vous laisse écrire vos petits pavés, ce sera très intéressant. Moi, je vais aller faire une petite sieste. Voilà, n'oubliez pas de lâcher vos subs et vos primes pendant, parce qu'il ne faut pas déconner. Merci beaucoup, à tout à l'heure. J'attends toujours le message dans le chat qui est arrivé, heureusement. Mais c'est vrai, ce qu'il dit, enfin, il est sérieux ou pas? Il est vraiment parti? Enfin, j'adore. Bon, les habitués savent que je fais ça assez souvent. On en reparlera, les amis. J'ai adoré dans le chat, là, quelqu'un peut me prêter une feuille, est-ce que je peux copier sur ma voisine, est-ce que quelqu'un aurait un stylo voilà. C'est risqué de faire ça, j'allais me barrer moi. Bon, c'est Gus, à un moment il faut essayer de deviner quand il y a du troll quoi. Mais franchement, jamais je ferais ça, jamais je couperais un stream comme ça, je peux pas, c'est cavalier, c'est impoli, vous passez du temps avec moi, vous participez, vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre intelligence, pour la plupart. Je peux pas cut un stream comme ça en faisant le couillon quoi. Il y a pas longtemps, je tombais sur un stream comme ça où quelqu'un avait une session de gaming un peu difficile et ce qui est mon quotidien. Et donc au bout de 2-3 games, il a dit j'en peux plus, ciao, je me barre. Fin du live. Waouh, putain, j'étais ah ouais quand même. Et en fait, jamais je pourrais faire ça. Ça m'avait, je me suis fait ah ouais, incroyable. Mais en même temps, ça m'a impressionné. J'ai trouvé ça couillu, quoi. Voilà. Parlons des conséquences concrètes. Hein, quelqu'un disait tout à l'heure, c'est bien qu'il n'y ait pas de gouvernement, en fait. Ça sert à quoi un gouvernement? Regardez la Belgique, ils n'ont pas de gouvernement, c'est le truc que je lis à chaque fois. Ils sont très bien, les Belges, regardez comme ils sont heureux. Okay, c'est parce que tu croises un Belge heureux à Bruxelles, qui est une ville formidable, t'en conclus que politiquement le système marche quoi. Voilà le raccourci quoi. Conséquence par exemple, c'est que on a aujourd'hui l'éducation nationale qui sait pas trop où elle va puisqu'on a une rentrée scolaire inédite sans cap politique. C'est la une du Monde, mesdames et messieurs. Nicole Belloubet, ministre démissionnaire de l'éducation, donc le Figaro parle de ministre zombie. Hein, ils sont démissionnaires, ils sont plus là, mais ils sont là. Ils ont démissionné, mais ils sont encore en fonction. Voilà, c'est les ministres zombies, disait le Figaro. Donc, Nicole Belloubet, ministre démissionnaire zombie de l'éducation, réunit les recteurs hein, avant de tenir mardi la rituelle conférence de presse. Donc, elle n'est plus en responsabilité, mais elle tient une conférence de presse.
Waouh.
Contrairement à ses prédécesseurs et en raison du contexte politique, Madame Belloubet ne pourra rien annoncer de nouveau. Super. Une conférence de presse pour annoncer rien.
Ok.
Brevets, groupes de besoins, les enseignants comme les élèves, les parents attendent d'en savoir plus sur le devenir des réformes. Il y a plein de réformes qui ont été lancées. Ah, je n'ai pas mis la scène, pardon, excusez-moi. Il y a plein de réformes qui n'ont pas été lancées. Bah, voilà, les gens qui disent oh, c'est grave qu'il n'y ait pas de gouvernement. Bah, si. Bah, si, la preuve. Une rentrée scolaire sans cap politique. Ça, c'est vrai pour tous les ministères. Hein. Hein. Une rentrée scolaire sans cap politique. De mémoire d'historien de l'éducation, on n'a jamais connu un ministre de l'éducation chargé des affaires courantes à la rentrée. Une rentrée scolaire sans ministre réellement en poste, ça n'est jamais arrivé. Quel cap éducatif Nicole Belloubet peut-elle dessiner pour l'année scolaire à venir ? Alors qu'un changement de gouvernement est annoncé très rapidement, que les résultats des élections législatives des 30 juin et 7 juillet appellent à un changement de politique. En cette fin août, l'entourage de Nicole Belloubet le concède, il n'y aura pas d'annonce de nouveauté.
Ok.
Ce n'est pas une rentrée sereine pour les personnels, car certaines informations nous manquent, disent les enseignants. Les personnels s'inquiètent, relate Elisabeth Alain Moreno, qui est secrétaire générale du syndicat des enseignants SE-UNSA. La succession de ministres, par ailleurs, parce que les ministres de l'éducation, ces derniers mois, il y en a eu. Hein. Il y a eu Gabriel Attal, sauf qu'il est devenu Premier ministre. Il a cédé sa place en janvier à Amélie Oudéa-Castéra, puis ça ne s'est pas très bien passé. Elle a été remplacée 28 jours plus tard. Pourquoi je rigole, je pouffe comme ça, moi. Par Nicole Belloubet. Puis la dissolution a conduit à un enlisement des réformes. Chaque gouvernement annonce, chaque ministre annonce ses petites réformes, puis là, il n'y a plus de ministre. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Fin 2023, après l'annonce du plan choc des savoirs à la suite des résultats des élèves français, vous savez, dans le programme international pour le suivi des acquis des élèves, le PISA, la rentrée 2024 s'annonçait pourtant comme celle d'une transformation. Il y avait plein de réformes importantes qui devaient être mises en place. Là. 8 mois plus tard, la liste des mesures annoncées a été largement allégée. Les groupes qualifiés non plus de niveau, il y avait une histoire de groupe de niveau. Maintenant, ils sont appelés les groupes de besoin dans les textes officiels parus au printemps, vont se mettre en place en français et en mathématiques dans les classes de 6e et de 5e. Mais tous s'interrogent sur le devenir des mesures. Qu'est-ce qui va se passer suivant la couleur du futur gouvernement hein. Le nouveau Front populaire n'a-t-il pas écrit dans son programme, par exemple, qu'il abrogerait les mesures du choc des savoirs. Donc on a un programme éducatif, le choc des savoirs qui a été voulu par Gabriel Attal, qui est en train d'être mis en place, mais pas tellement en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de ministre. Mais alors, est-ce que. Donc les enseignants sont supposés appliquer ça. Voilà, est-ce qu'ils vont le faire, pas le faire, sachant que le prochain gouvernement aura une autre couleur politique. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de gouvernement. Voilà. Pour les gens concernés par des décisions politiques, comme ici les enseignants, bah, on navigue à vue. Hein. Bah, le brevet, oui, il y a une réforme du brevet, Firewing BZH, je ne t'ai pas lu tout l'article du Monde, mais ça parle du brevet, il y a une réforme du brevet, est-ce qu'elle va être mise en place? Bon, c'est pas trop. Bah, je ne sais pas, imaginez-vous, mettez-vous à la place des directeurs d'établissement, des enseignants, quoi. Des parents, accessoirement, quoi. Des élèves, c'est pas... Voilà. Voilà. Donc, pardon, hein. Encore une fois, ce n'est pas contre la Belgique, mais les gens qui débarquent dans le chat en disant « Ah, en Belgique, ils n'ont pas de gouvernement, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. » Bah, non, en fait. Voilà, la pause, le statu quo, un peu le chaos aussi. Hein. Bah, comme le dit Defecator officiel, avec plus de précision que moi, parce que Defecator est d'une grande rigueur, allez voir son travail sur Twitch et sur YouTube. Dans l'éducation, ce sont les recteurs qui mettent en œuvre les réformes. Ils sont nommés par les ministres, ces recteurs. C'est pour ça que tout est bloqué si le gouvernement change. GG à toi. Non, c'est faux, Xov. Les groupes de niveau, c'est déjà préparé. Les emplois du temps sont déjà faits. Les brevets, on sait aussi. Va voir l'article du Monde, tu vas voir. Tu vas voir, selon les régions, ça ne va pas être appliqué pareil. Le brevet, c'est complètement en pause. Tu vas voir. Defecator, c'est le GOAT, exactement. Qu'il est cool. Quand il y a un ministre, sa gueule. Quand il n'y en a pas, sa gueule aussi. Ah bah oui, on est en France. Ah bah, hey, si on peut plus gueuler, hein, qu'est-ce qu'il nous reste hein. Merci Lacroix. Merci Lacroix qui, ce matin, attire notre attention sur un conflit oublié. Un conflit qui dure depuis des mois. qui touche un pays qui s'appelle le Soudan. Un conflit, une guerre civile, une guerre qui a fait déjà au moins 150 000 morts, qui a fait 1 million de déplacés. Et merci la Croix d'attirer notre attention là-dessus. Moi, je ne savais pas ce qui se passait au Soudan. Voilà, je ne savais pas que ça avait pris cette ampleur. Et on va lire ce dossier dans un instant. Je vais juste me lancer un petit café très rapidement un expresso. OK ? Voilà. Mais je vous mets même pas de pause. Je vous mets l'article. Ceux qui ont des très bons yeux, vous pouvez commencer à lire. Je vous mets pas de pause, pas de musique. Il y en a pour vraiment 30 secondes. Je me lance un café, OK ? Bougez pas. Vous entendez la machine à café au loin ou pas ? Vous l'entendez la machine à café ou pas ? Vous êtes prêts ? La glace ou quoi ? J'ai jamais mis encore. C'est de ça que j'ai eu l'asilane, je suis trop fier. Mon sac de la. Et au théâtre stream qui écrit la classe t'arrive à l'école avec ton sac, la Zidane à la rentrée, tu vois. Mon sac de la Zidane. Il est classe, non ? Hein ? C'est pas un cartable qui régale, ça ? Ça va flex à la rentrée, hein, tu vas aller voir. T'as, il est trop cool ton sac, ouais, je sais. Oh, regardez, c'est Samuel. Ah, il est tellement. Waouh ! T'as vu le sac ? Il a. Attends, tu sais pas ? Mais si, il a fait la Zilane. Waouh ! Il est incroyable. Ouais, ouais, Samuel, il est un peu... Ah, t'es jaloux ! Ah, t'es jaloux, en fait ! J'ai eu ma meilleure vie. J'ai un chaque Zilane. Et j'étais à deux doigts de la gagner, en plus. C'était... Un doigt. Ouais. Ah, comment c'était l'école pour toi ? Ça me stressait un peu l'école. Je trouvais que c'était un peu passéiste, faut apprendre des trucs par cœur. Enfin, je sais pas, j'ai commencé à m'amuser en première. C'est tard. Avant, je trouvais ça, je sais pas. C'était un peu une école de l'ancienne, quoi, à l'ancienne un peu. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé. En même temps, il faut apprendre des trucs, donc je sais pas. Voilà. Parlons du Soudan, les amis. Et moi, je trouve que c'est le dossier, un des dossiers les plus intéressants ce matin. Je dis encore merci à la Croix d'attirer notre attention sur ce qui se passe au Soudan. Soudan, les civils pris au piège de la guerre. Entre bombardements et pénuries alimentaires, les populations s'organisent pour survivre. Il y a beaucoup de témoignages et il y a surtout un éclairage qui nous fait comprendre ce qui se passe au Soudan et c'est juste hallucinant. Édito d'Anne Ponce. Anne Ponce qui écrit ce matin. Le pays se trouve dans l'une des pires situations humanitaires au monde. Depuis 16 mois, Une guerre fratricide ravage cette région du monde, minée par les pillages, les viols, les bombardements et la famine. Plus de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, au-delà des frontières. Nous faisons place ce matin à ce conflit oublié. Le Soudan se situe à un point de rupture cataclysmique. C'est alarmé l'Organisation internationale pour les migrations. Le conflit qui oppose depuis le 15 avril 2023, alors quel est ce conflit ? L'armée régulière du pays à ses anciens auxiliaires, ce qu'on appelle les paramilitaires des forces de soutien rapide, a déjà tué 150 000 personnes. Hein ? Donc le conflit dure depuis avril 2023, 150 000 morts déjà, et provoqué des déplacements massifs, on parle d'un million de personnes. Chaque camp bénéficie du soutien d'alliés étrangers, vous allez voir lesquels, intéressés par les ressources de cet immense pays et par sa situation stratégique. Il y a des armes qui arrivent au Soudan et qui entretiennent ce conflit. Alors, il y a plein de témoignages de Soudanais qui sont très intéressants, que je vous invite à lire dans La Croix, des familles, hein, leur quotidien, notamment parfois des bombardements tous les jours, merci Best Rider pour le soutien. Et on a un paragraphe sur l'explication de ce conflit. L'enlisement d'une guerre nourrie de soutien étranger. Laminé par les combats, les atrocités et la famine, le Soudan vit une descente aux enfers, scellée par l'ingérence de pays étrangers. Pourparlers et médiation échouent à arracher un cessez-le-feu. C'est une impasse qui s'écrit à l'abri des regards, reléguant le Soudan au rang de conflit oublié. Les atrocités de guerre qui embrassent depuis 16 mois déclinent pillages, viols, exécutions et bombardements. Les États-Unis estiment que le conflit a tué plus de 150 000 civils. Selon les Nations Unies, 11 millions de Soudanais ont été déplacés par les combats dans des mouvements qui s'intensifient en raison des inondations et de la famine. Il s'agit de l'une des pires crises humanitaires de notre époque. Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'un combat fratricide. Là, on va comprendre quel est le problème. Entre deux généraux, vous avez le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est à la tête de l'armée régulière soudanaise, et vous avez le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui est le chef des forces paramilitaires de soutien rapide. Le premier général est soutenu par les anciens du régime islamiste et les élites de Khartoum, la capitale. Le second est issu des milices arabes janjaouides, impliquées il y a une vingtaine d'années dans le génocide du Darfour. Ensemble, parce qu'à un moment les deux étaient ensemble, les deux généraux ont renversé en 2021 le gouvernement de transition démocratique, okay, installé après une révolte populaire qui avait évincé la dictature islamiste, la longue dictature islamiste d'Omar el-Béchir, mais leurs ambitions les opposent. Donc les gars se sont alliés pour renverser le gouvernement de transition démocratique et après ils se sont fait la guerre. Leur guerre est déclenchée le 15 avril 2023. Sur son sillage, leur rivalité soulève les prises d'armes de milices locales, des conflits locaux et des tensions ethniques. Dès les premiers affrontements, les grandes puissances n'en saisissent pas la gravité. Il y a eu une inaction des grandes puissances au début, regrette la Croix. Les réactions diplomatiques des États-Unis aussi entre instructions divergentes, tandis que les Européens suivistes et divisés restent dans l'effacement, décrypte Roland Marshall, qui est un chercheur au CNRS. Il y a donc d'emblée au Soudan une réponse occidentale qui est limitée, à laquelle se greffe le silence de la Chine, premier partenaire commercial du pays, et celui de la Russie. Et dans cette brèche, c'est dans ce silence finalement des grandes puissances, cette inaction, que s'immiscent des acteurs régionaux en compétition attirés par l'intérêt stratégique d'un pays situé entre le Sahel et la mer Rouge. Tandis que l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Russie et dernièrement l'Iran épaulent l'armée gouvernementale, le général Emeti a reçu une aide décisive des Émirats Arabes Unis, tout en tissant lui aussi des liens avec la Russie à travers la contrebande de l'or et le groupe Wagner. Les deux camps poursuivent les combats tant qu'ils auront les moyens grâce à leurs alliés, résume un autre chercheur qui s'appelle Thierry Vircoulon. Face à ce chaos, des tentatives de médiation sont à l'œuvre. Les dernières viennent de s'achever à Genève à l'initiative des États-Unis, mais le général al-Burhan a refusé de s'asseoir à la même table que son rival. C'est une lutte à mort pour le pouvoir qui est en train d'être livré et qui met le Soudan à feu et à sang. Oui. Donc là, on a un conflit qui est loin des yeux, hein, dont on ne parle pas, voilà, et sur lequel on a peu d'infos, et je trouve que ce dossier de La Croix est un peu une masterclass parce que c'est une grande précision, et alors, en lisant quelques minutes ce dossier, bah vous comprenez pourquoi ce qui se passe là-bas, quoi. Voilà. C'est fou, hein. Bon, ça, je trouve que c'est formidable quand la presse écrite joue ce rôle. Pierre-Yves, ça dure depuis 16 mois. Voilà. Ah, merci. LinkedIn dit Hugo Travers a fait plusieurs news sur ce sujet ces derniers mois. C'est fou qu'il y ait aussi peu de couverture sur la question. GG Hugo. Merci, Lesidi. Ouais. Merci, Eloise, pour le 9e mois d'abonnement. Alors, vous êtes plusieurs à souligner à raison que Lacroix parle de l'inaction des grandes puissances, mais quand les grandes puissances font rien, elles sont accusées d'inaction. Quand elles s'impliquent, elles sont accusées de s'occuper de choses qui ne les regardent pas et de lorgner vers les ressources du dit pays. C'est compliqué. Comme le dit Splagada, au milieu, il y a les civils. Bon, en tout cas, maintenant que je comprends un peu de quoi il retourne, je suivrai ce conflit, notamment c'est les quelques initiatives diplomatiques en la matière. Alors, hier, certains d'entre vous m'ont interpellé, vous avez eu raison de le faire, sur une actu que j'ai pas évoquée, sur l'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, à Paris. Alors, il y avait des articles hier, mais j'ai un peu zappé. Pourtant, j'ai vu qu'il y avait plusieurs articles, mais bon, je ne me suis pas intéressé, puis je n'ai pas été hypé par les articles. Voilà. C'est un peu de ma faute. Moi, j'avais beaucoup d'actu hier, et puis parfois, je fais l'impasse sur un truc. C'est très subjectif. Mais en fait, vous avez attiré mon attention sur le truc. Je me dis, si les viewers m'en parlent, c'est que c'est peut-être un petit peu important. Voilà. Et je trouvais un bon article dans Le Monde, justement. Merci, Latitouti, pour le soutien. Pour vous en parler, je trouve que l'article est plutôt bien fait. Voilà. Le PDG de Telegram, donc Pavel Durov, arrêté à Paris. On va voir pourquoi. Lisons. Buvons du café, lisons. Ça dit quoi ? Pavel Durov, donc le fondateur et le PDG de la messagerie Telegram, a été arrêté à son arrivée à Paris, c'était samedi, dans le cadre d'une procédure accusant la société de complicité dans de nombreux dossiers liés aussi bien au trafic de drogue, à l'apologie du terrorisme, au cyberharcèlement. Selon l'AFP, l'agence France Presse, le juge d'instruction parisien chargé de l'affaire a prolongé dimanche sa garde à vue avant une éventuelle remise en liberté ou une mise en examen, avec près d'un milliard d'utilisateurs, donc presque autant que de followers de ma chaîne Twitch, dont une large partie dans les ex-républiques soviétiques. Telegram est devenu avec WhatsApp l'une des plus importantes messageries dans le monde, ça vous le savez. Un succès lié notamment à sa large absence de modération, salut Camille. Modération... Libertarien revendiqué, M. Durov se dit en effet opposé à toute censure. Or, quelques minutes de recherche sur Telegram suffisent pour retrouver des groupes faisant l'apologie du terrorisme ou promouvant des escroqueries aux crypto-monnaies. Waouh, super contenu. Comme le dit Viegod, qui le résume très bien, Telegram, c'est vraiment l'application de la liberté, mais un peu trop libre, quoi. C'est très bien résumé. Libertarien comme Musk, exactement, bien joué. On va en parler. C'est pour son manque. Alors pourquoi il est poursuivi ? Oui, contenu pédophile aussi. Oui, tout à fait. Tu as raison. Ouais, on va en parler. Alors, c'est pas parce que c'est un adepte de la liberté d'expression qu'il a arrêté. Hein. C'est un juge qui a pris cette décision. Donc c'est sur des. C'est une décision fondée sur le droit. Alors, pourquoi il a été interpellé ? C'est pour son manque de collaboration et la modération déficiente de son application que M. Durov était visé en France par un mandat d'arrêt. L'OFMIN, qui est chargé de la lutte contre les violences aux mineurs, avait discrètement lancé une enquête sur la diffusion de contenu pédopornographique sur Telegram. Enquête à laquelle se sont ensuite associés, pour des infractions allant du cyberharcèlement au crime organisé, plusieurs services d'enquêteurs. L'arrestation du PDG d'une application aussi populaire est une première mondiale. C'est la première fois qu'un PDG comme ça d'une application aussi populaire est arrêté dans le monde. C'est la France, mesdames et messieurs. C'est la France. C'est nous. Hein ? Hein ? La France, oui. C'est nous. Les Jeux de Paris, c'est chez qui ? C'est chez nous. Le Tour de France, c'est chez qui ? C'est chez nous. Hein ? Les Jeux Paralympiques, c'est chez qui ? C'est chez nous. Le plus grand événement caritatif ever sur Twitch, c'est qui? C'est chez nous.
C'est The Event.
La première arrestation d'un patron de messagerie comme ça, c'est chez qui? C'est chez nous. Créteil, c'est où? C'est chez nous. Voilà. La baguette, c'est qui? Bon. La dissolution, c'est chez qui? Oui, Twisted Dart, t'as raison. C'est chez nous. Oui. La dette, c'est chez nous. Enfin, tout le monde en a un petit peu. La France, c'est où la France? Aussi.
Attends, mais... Oh, mes voisins, ils doivent... Oh. Attends, je sais, j'ai mes fenêtres ouvertes, c'est l'été. Je suis dans une petite cour, toutes les fenêtres sont ouvertes. Et en fait, je n'y pense jamais. Mais je bug comme un connard. N'importe quoi. Alors, c'est drôle parce que là, vous êtes là. Mais je pense que la plupart des gens dans l'immeuble ne savent pas ce que je fais. Et tous les jours, ils entendent un mec beugler des trucs qui n'ont aucun sens. Vous, mettez-vous à leur place. Hein? Un jour, il y a un mec qui va gueuler dans la cour et vous allez l'entendre en même temps que moi. Mais ta gueule! T'en as pas marre de dire des conneries toute la journée? J'ai appelé les flics. Descends, c'était un homme, gros con. Vous allez voir, un jour, ça va me tomber sur la gueule. Toutes les fenêtres sont ouvertes, là. Faut que j'arrête de gueuler. Donc, l'arrestation du PDG d'une application aussi populaire est une première mondiale. C'est en France. Par le passé, de nombreux gouvernements avaient tenté de bloquer Telegram ou menacé de le faire. Que de la gueule, quoi. Mais aucun n'avait émis de mandat d'arrêt contre M. Durov ou ses proches collaborateurs. Voilà. Début 2022, l'Allemagne, agacée du manque de collaboration de la plateforme dans une enquête sur un mouvement d'extrême droite soupçonné de préparer un coup d'État, avait menacé de bloquer l'application avant qu'un accord dont le contenu n'a pas été rendu public ne soit trouvé. Donc en Allemagne, ils ont tenté des trucs, ça s'est pas fait. À la fin des années 2010, la Russie avait sans grand succès tenté de bloquer le service sur son territoire et accusant Telegram de ne pas collaborer avec ses services d'enquête. La semaine dernière encore, Telegram faisait l'objet de vives critiques de la Ligue de football professionnel, hein, qui accusait de ne pas modérer les flux pirates de matchs de Ligue 1. Il faudra en parler un jour, ça. J'avais un article aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. L'arrestation de M. Durov est d'autant plus surprenante qu'en 2021, alors ça, c'est un truc que j'ai halluciné. Le mec, il vient d'être arrêté par la justice française, ok? Et j'apprends, merci Griffon93 pour le soutien, qu'en 2021, le monsieur là, il a obtenu la nationalité française, M. Durov. Vraisemblablement à l'issue d'une procédure rare et très politique, dite de l'étranger émérite. Oui, oui. Vous aussi, vous êtes surpris. Qui permet au gouvernement d'accorder un passeport français à une personne contribuant au rayonnement international de la France. Cette procédure, à l'initiative du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, profite en général des célébrités francophones et francophiles. Elle a aussi, ces dernières années, bénéficié des entrepreneurs. C'était qui au pouvoir en 2021? Ah bah c'était le premier mandat Macron. Alors attends. Premier ministre, c'était qui? C'était Castex? C'était qui? Non, c'est pas une blague. Ouais, premier ministre Castex, ok, président Macron et... ministre des Affaires étrangères. Allons au bout du truc, hein. Allez. J'ai l'impression que c'est Jean-Yves Le Drian. C'est possible, ça? Ouais, Jean-Yves Le Drian. Voilà. Donc, bon, bah oui, c'est un peu hallucinant, mais le monsieur qu'on vient d'arrêter, là, en 2021, l'État français, le gouvernement, lui a donné la nationalité française, un truc rarissime, quoi. Voilà. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut lire les journaux. C'est intéressant. Le Monde. J'adore la phrase de Le Monde. L'arrestation de M. Durov est d'autant plus surprenante. J'adore cette histoire. Voilà. Fin de l'article. L'arrestation de M. Durov a également provoqué d'importants remous aux États-Unis, où il dispose de nombreux soutiens dans les cercles libertariens et parmi les conservateurs. Voilà. Elon Musk, par exemple, hein, a publié des messages critiquant l'arrestation de Pavel Durov et lançant même le mot-clé hashtag free Pavel. Voilà. Plusieurs figures de la droite, dont l'ancien candidat complotiste à la présidentielle américaine Robert Kennedy Jr., ont aussi apporté leur soutien à M. Durov. Telegram est très utilisé par différents mouvements conspirationnistes. Voilà. Bon. Non, c'est pas la même chose. Étienne dit ça existe, les soirées libertariennes. Non, non. C'est autre chose. C'est pas les soirées auxquelles tu penses. Ça veut dire c'est les gens qui sont adeptes de la liberté d'expression extrême. On peut tout dire. C'est ce qu'il dit Musk. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de modération sur Twitter désormais. On peut tout dire, ça va, faut pas non plus. Oh, on peut plus rien dire. C'est un peu ça. Merci, 685. Vos réactions sur cette histoire? Il y a Gilou qui dit on pourrait pas quand même filer la nationalité française à Musk et l'arrêter ensuite. C'est drôle. Alors oui, l'article dit, tu as raison. C'est Demoiselle Sauveur qui dit après c'est un réseau problématique pour plein de raisons, mais ça permet également d'être plus en sécurité pour des manifs qui ne plaisent pas à l'État. C'est vrai. Attends, l'article dit à un moment ça. Ah oui, c'est dans l'édito, je vais vous le lire. Parce qu'il y a des aspects positifs à Telegram, et ça le monde le dit aussi, comme toi. Let's go. Rien n'est jamais tout blanc, tout noir. Jusqu'où peut aller la liberté? Parce que le monde va plus loin que ce côté factuel et s'interroge en fait sur qu'est-ce que c'est la liberté d'expression. C'est intéressant. C'est dans l'édito, c'est un peu plus loin, c'est à la fin du journal, c'est page 24. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression sur les plateformes numériques? C'est une bonne question ça. Non, l'arrestation par les autorités françaises du fondateur du PDG de la messagerie Telegram, Pavel Durov, relance un débat beaucoup moins simpliste qu'il en a l'air et essentiel pour l'ordre démocratique moderne. Pavel Durov, 39 ans, défend une approche libertarienne de cette question. Il refuse au nom d'une opposition de principe à la censure les méthodes de modération de contenu qu'appliquent la plupart des autres plateformes. Cette attitude a fait de Telegram une messagerie à double tranchant, précieuse pour les opposants, qui peuvent ainsi communiquer à l'abri de la surveillance des régimes dictatoriaux. Elle est aussi providentielle pour les pédophiles, pour les criminels, pour les cybercriminels, pour les terroristes de toutes sortes. Ah ouais. Libre d'étendre leur réseau sans être inquiétés. C'est cette deuxième dimension qui explique l'arrestation. Quelqu'un me disait, mais pourquoi il est arrêté? C'est cette deuxième dimension qui explique l'arrestation de M. Durov que la justice française voudrait interroger à propos d'infractions commises sur Telegram aux lois punissant l'escroquerie, le trafic de stupéfiants, le cyberharcèlement, la criminalité organisée, l'apologie du terrorisme. L'affaire secoue le monde de la communication numérique où les sympathisants de l'approche de Pavel Durov comme Elon Musk ont dénoncé une violation de la liberté d'expression. Elle constitue aussi un test juridique et politique important pour l'Union européenne, devenue ces dernières années la championne de la régulation démocratique des plateformes numériques. Parce que vous savez que l'Europe est un peu à la pointe en matière d'encadrement justement et de régulation démocratique des plateformes numériques. Et là aussi, on a un petit cocorico au niveau européen, mais il se passe des choses intéressantes au niveau européen pour ça. L'Union européenne a dû pour cela croiser le fer avec les géants américains, imprégnés de la culture du premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit, vous savez, la liberté d'expression et du libéralisme de la Silicon Valley, soucieux aussi de préserver leur capacité d'innovation et leurs immenses profits. Bon gré mal gré, ils ont accepté le dialogue et fini par se ranger aux restrictions imposées par le Digital Service Act européen, le règlement européen sur les services numériques adopté en 2022. Voilà. Vous voyez, le monde va un peu plus loin que l'arrestation de Durov. C'est quoi, on a bien fait d'attendre cet article. Exactement. Grand Nolet résume pour ceux qui n'auraient pas compris. Telegram n'est pas attaqué pour ses principes, mais pour son non-respect de la loi pour manque de collaboration lors de la modération des contenus publics. Exactement. Tout à fait. Si, il va le rendre cet après-midi, Elliot. J'ai un rendez-vous à midi. Oui, on a parlé d'Oasis ce matin. Mais après, vers 13h, je reviens jouer avec vous. Mais le matin, c'est la presse. Dorian, la Titouti, tu régales. Merci de ta participation. Quel chat de qualité, bordel. Apollo...
Apollo Samuel écrit, Samuel, il faut vraiment que tu fasses un petit jingle pour la matinée des journaux. Ouais, bah, je vais le faire à cappella. Je n'ai pas besoin de faire un petit jingle. Je vais le faire avec la bouche, là, comme ils font le beatbox. Là. Je vais faire un truc avec... fait maison, quoi. Hein ? Tu vois, genre... C'est la revue de presse. Tu vois, un truc comme ça, un peu jazzy, un peu élégant, un petit peu, tu vois. C'est la revue de presse, tu vois. Qu'est-ce qu'on pense ? Hein ? C'est validé ? Merci la Latote pour le 25 et moi. C'est la revue de presse. Un truc un peu comme ça. Voilà. Je vais le sampler. Comme ça, j'aurai pas à le chanter. À chaque fois. C'est la revue de presse. Un truc comme ça. Je vais bosser là-dessus. En vrai, Joe, il m'a dit, putain, c'était une super table de mixage. Samuel, tu devrais mettre un peu des effets, des machins et tout. Ah, c'est... chez qui j'étais samedi aussi, qui m'a dit ça aussi. Loni, le streamer chez qui j'étais invité samedi soir. Il m'a dit ça, il m'a dit, ah, tu devrais mettre un peu des jingles, des trucs et tout. Oui, j'ai entendu un truc horrible, j'ai dû mute. Dites-moi quand c'est bon. Alors toi, tu as le pouvoir de mute, Black Rose. Moi, j'ai le pouvoir du ban def. Donc, je serais toi. Je fermerais un peu ma grande bouche. Hein ? Parce que... Avec moi, ça peut démarrer au quart de tour. Hein. Ah, il n'entend pas ? Merde. Attends, je vais lui écrire dans le chat. Ouais, puis je mets ma petite émote Samuel rage. J'ai une émote Samuel qui rage. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Hop. Voilà, je l'ai épinglé. Merci Ragnoc. En tout cas, vivement la liberté d'expression chez Samuel. Pierre-Yves me demande si j'ai réfléchi un peu à mon programme du The Event, ce que je vais y faire, genre défi, nouveaux jeux. Non, je pensais surtout... en fait, je vais tout miser sur mon glow, sur mon acquis, c'est-à-dire... Je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, je pense qu'au fond de moi, je pense que vous avez une certaine chance de m'avoir. Je pense que le The Event a de la chance de m'avoir. Je pense que pour aller au fond du fond, je pense que l'humanité a de la chance de m'avoir. Et je pense que ma présence suffira. Voilà. Mon glow, voilà. Et que je vais le faire comme d'habitude. C'est-à-dire que, voilà, je vais lancer le streaming et puis voir ce qui se passe, quoi. Hein, voilà. Je suis pas obligé de préparer des trucs. Voilà. Je pense que ma présence est déjà un cadeau suffisant aux The Event et à l'humanité, et que c'est pas la peine non plus de préparer 1000 trucs, quoi. Voilà. Ouais. Au moins, tu es humble, c'est bien, me dit Mick. Oui, c'est l'une de mes qualités, tout à fait. Je suis vraiment un gros con, moi. Bon. Non, si j'ai plein d'envie, j'ai plein de trucs. Bah dans mes sub-goals, déjà, il y a du contenu. Hein. Et puis, on va faire plein de trucs avec d'autres streamers. J'espère que les autres vont faire des trucs avec moi. Enfin. Ah, vous savez, ça, c'est un de mes stress, en fait. J'espère que les autres vont faire des trucs avec moi. Quoi. Putain, on est quoi, 36 sur place. Moi, j'ai tellement peur d'être laissé de côté. Tu vois. Oh non, pas avec le vieux, là. Pff, arrête, il est gênant. Non, pas Valo avec lui. Il est vraiment trop mauvais, c'est un enfer. Non. Ah, puis son humour là. Oh là là, cet humour du boomer là. Oh non. Attends, il nous regarde. Attends, il nous regarde. Oui, tu disais quoi, oui ? Tu vois. Oh, putain, j'ai trop peur de rester tout seul sur mon ordi, quoi. Ça, en fait, c'est ma grande peur du The Event. Sérieux, quoi. Hein, c'est de te laisser tout seul dans mon coin. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. En vrai, une vraie de vrai. On va voir. J'espère. GG, le Parisien. Alors ça, si je pensais que j'aurais dit ça un jour, parce que bon, je suis Moi, je ne m'engage pas pour tel ou tel. Samuel Etienne ne roule pour personne. En tout cas, pour aucun homme politique et aucune femme politique. Mais ce matin, j'ai envie de dire GG Valérie Pécresse. Ah bah ouais. Alors, je sors un peu de... Voilà, moi, j'ai des valeurs, j'ai parfois des idées, des avis sur l'actualité, mais je ne roule pour personne. Voilà. Mais là, j'ai envie de dire GG Valérie Pécresse. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Alors, évidemment, il faudra voir si ces déclarations sont suivies d'effets, de choses concrètes. Mais, voilà, moi, ça fait des années, ça fait des décennies que je gueule en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette honte que le métro parisien ne soit pas accessible aux personnes en situation de handicap. Hein, les habitués le savent, je le dis au moins une fois par semaine ici, je veux dire, c'est une honte. C'est une honte qu'un pays riche comme la France, qu'un pays, qu'une ville comme Paris ne rende pas accessible son métro aux personnes en situation de handicap. Voilà. Alors pourquoi je dis GG Valérie Pécresse ce matin ? Bah parce qu'en fait, elle propose de le faire. Alors je ne suis pas débile, hein. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et les promesses des politiques. Hein. Mais, voilà, je veux y croire un instant que c'est un vrai truc sincère et que c'est le même constat que je fais, que ce n'est pas normal. Voilà. Pourtant, elle disait debout, il fut un temps. Oh, petit Clem, oh non, arrête. Oh non, petit Clem, pas toi. Ben non, pas après tout ce que tu as fait. Merci Gaspacha 63. Oh non, petit Clem. Oh non. Ah non. Bonne blague, Clamakine ? Non. Ah non. Le défi du métro pour tous. Valérie Pécresse propose de rendre le réseau parisien praticable aux handicapés d'ici à 20 ans. Bon, le chantier est énorme en vrai. Un chantier de 20 milliards, à mon avis beaucoup plus. Le métro 100% accessible banco, s'interroge le Parisien. À la veille des Jeux Paralympiques, Valérie Pécresse propose, donc c'est la présidente de la région Île-de-France, hein, c'est pour ça. Et a priori, c'est la région qui est en charge des transports. Donc voilà. Propose de lancer un plan à 20 milliards d'euros pour rendre le vieux métro parisien bien plus inclusif. Bon, bah moi, pardon, hein, c'est pas une prise de position politique, mais je dis, ah, quand même. Alors, je sais pas s'ils vont le faire, mais au moins on en parle. Hein. Les Jeux Paralympiques vont-ils donner un coup de fouet à un projet maintes fois évoqué, jamais lancé ? Ce lundi matin, donc c'était hier, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a mis les pieds dans le plat. Voilà. Un métro pour tous, ça peut être le grand projet de la décennie à venir. La proposition est sur la table. Après le Grand Paris Express, le super métro automatique à 36 milliards d'euros. Donc on a trouvé 36 milliards d'euros pour le Grand Paris Express, là. Les gens qui me disent ça coûte une blinde, bah alors. Hein ? J'avais pas vu le sondage. Qui desservira la banlieue parisienne au gré de 68 gares à l'horizon 2031, Valérie Pécresse veut lancer ce nouveau défi du métro parisien accessible aux personnes à mobilité réduite. 100% aujourd'hui des lignes de bus et tramway sont accessibles au PMR. Le RER, c'est pour le prendre de temps en temps, bah, je crois que ça va à peu près OK. Mais le métro, lui, est beaucoup moins performant, c'est même une catastrophe. Seule la ligne 14 ainsi que les prolongements des lignes 11 et 4 sont dotés des équipements nécessaires. Voilà, moi, je trouve que c'est scandaleux. Le sujet n'est pas nouveau. Une étude a été commandée même en 2019 pour évaluer la faisabilité de ces travaux d'accessibilité sur la ligne de métro 6 qui relie la vous savez, Nation à Charles de Gaulle. Voilà. Et donc, on a fait une étude en 2019 sur combien ça coûterait pour mettre aux normes en accès PMR cette ligne 6. Coût du projet entre 600 et 800 millions d'euros. Voilà, ça coûte des sous. C'est sur ce dossier que la région s'est d'ailleurs appuyée pour évaluer le budget global nécessaire pour un plan global d'accessibilité du métro parisien. Ça représenterait une enveloppe de 15 à 20 milliards. On a vu beaucoup plus. Bon. La région Île-de-France se dit prête à en... Moi, j'avais vu des chiffres qui disaient plutôt 40 à 50. C'est pour ça que je dis ça. La région Île-de-France se dit prête à en financer un tiers et se retourne maintenant vers l'État et la mairie de Paris pour savoir s'ils veulent s'engager. Ah. La région dit « Ok, let's go, on y va, on met un tiers. Est-ce que l'État peut mettre un tiers ? Est-ce que la ville peut mettre un tiers ?» Alors la ville est un petit peu gênée. Adjointe d'Anne Hidalgo en charge de l'urbanisme et de l'accessibilité universelle, Madame Lamia El Aragé, répond « C'est une bonne chose. Mais les transports, c'est de la responsabilité de la région. » On sait que la mise en accessibilité de toutes les stations est complexe, voire impossible, donc on part un peu défaitiste quand même, hein, du côté de la mairie de Paris. Pourquoi pas faire une mise en accessibilité partielle ? Ok, ils vont mettre un ascenseur au bout d'une ligne. Voilà. Bon, ça casse un peu l'ambiance, quoi. Ça, c'est la mairie de Paris.
Cantonné aux affaires courantes, le ministre des Transports démissionnaire Patrice Vergriette ne souhaite pas réagir. Ah bah. Les gens dans le chat qui me disent « Samuel, qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec ton gouvernement ?» C'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de gouvernement. Gouvernement démissionnaire, on n'a pas besoin de gouvernement. Regarde la Belgique, là, ils n'ont pas de gouvernement, ils sont très heureux. Hein, bah voilà. Bah là, le ministre qui est démissionnaire dit bah, « Moi, je ne suis pas en responsabilité, moi, les gars. Je suis là, mais je ne suis pas là. Ouais. » Bah, voilà. Donc, il ne répond pas. Mais les usagers, eux, applaudissent l'initiative de la plateforme des transports en commun. De la patronne des transports en commun. Rendre le métro accessible à tous, c'est une très bonne chose. L'installation d'un accès par ascenseur, ça ne servirait pas qu'aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux autres usagers, comme les personnes âgées. Hein, voilà, moi je serais très heureux, par exemple. Ou encore les familles avec poussettes. Ah bah c'est moi aussi, ça. Parce que j'ai deux statuts, je suis personne âgée et père de jeunes enfants. J'ai rencontré l'amour tard, c'est pas de ma faute. C'est ce que souligne Bernard Gobitz, qui est le vice-président de l'association des usagers des transports. C'est vrai que ça ne profiterait pas qu'aux personnes en situation de handicap. Voilà. Les associations de défense des personnes en situation de handicap, elles, restent prudentes. Hein. L'intention est évidemment louable, mais il ne faudrait pas qu'elles restent au stade de l'effet d'annonce. Alors, on n'est pas... Salut Evoxia, ça va ? On n'est pas dupe. C'est une annonce politique, donc je la prends avec prudence. Mais je suis content quand même que ce soit évoqué à ce niveau. Tu t'étais endormi ? D'ailleurs, je voulais faire une blague avec toi, mais je ne l'osais pas. J'ai oublié ce que c'était, d'ailleurs. J'ai oublié. Donc, petite ITV de Valérie Pécresse, du coup. Donc, la présidente de la région Île-de-France, elle dit « Nous allons vers un allongement de la durée de vie. Hein » bah, j'ai oublié. Mais en vrai, elle était drôle. Et une piétonnisation du centre de Paris, ça signifie que l'accessibilité du métro devient indispensable. Hein, je pense que ça pourrait être un projet très fédérateur en Île-de-France, dit-elle. Voilà. Est-ce utile, demande le Parisien, de lancer un projet à 20 milliards d'euros vu le contexte économique tendu ? Elle répond, l'accessibilité du métro, c'est un investissement pour l'avenir qui rapportera. Si on veut une ville attractive demain, et sans voiture, puisque je crois que c'est le projet de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à un moment donné, il faut aussi apporter des solutions. Je suis désolé, je ne roule pour personne, mais je suis 100% d'accord avec ses propos. J'espère que ce sera suivi des faits. Oui, je pense qu'il serait temps que la France et Paris se dote d'un métro à Paris, accessible à tous. On est d'accord avec ça ou pas ? Je suis le premier qui est pas d'accord, je casse la gueule de toute façon. Merci Quentin pour le soutien, merci Gaspacha. Oui, quasiment tous les jours à Brébus. Voilà, là je l'ai fait hier, j'ai fait... J'essaie de le faire au moins tous les deux jours, ça dépend aussi de l'actualité, mais j'essaie de le présenter le maximum. De toute façon, à un moment, je vais arrêter la télé, moi. Je vais faire 100% Twitch, hein. On rigole trop ici. Je ne roule pour personne, mais en Harley Davidson. J'ai roulé en Harley Davidson, en Indian, j'ai roulé en Honda, j'ai roulé en Yamaha, j'ai roulé en Ducati, j'ai roulé en Triumph. Une ancienne passion, mais je ne roule plus en moto. Ah, bêtise. Ta gueule, Cyril. Bon, tout le monde est d'accord, ok, c'est bon, parce que comme je suis pas très... en termes de cassage de gueule, je suis pas super équipé, ça m'arrange que... Okay. J'avais très peur qu'un mec me dise « Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et personne n'a dit ça. Ça m'arrange parce que là, je suis pas au top physiquement. Là. Ok, soulagé. Merci Quentin pour l'abonnement, merci à toi. Ouf, on a échappé au pire. Bon, et on termine, il me reste 12 minutes. Hop, ça, j'ai échappé au pire. Avant mon rendez-vous de 12h, je vais parler. J'ai rendez-vous pour parler de quoi, moi ? Ah oui, de Time Out, le retour de Time Out. Vous savez, mon grand. C'est quoi ? Séquence pub. Vous savez que le grand jeu de culture générale que j'avais lancé l'an dernier, là, sur Twitch, là,
On avait bien rigolé. Time Out revient, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, en septembre, octobre et novembre. Voilà. Et on fera ça avec une thématique ville à chaque fois. On fera à Paris, mais avec un accent donné à Montpellier, à Lyon et à Marseille. Hein, et donc avec non plus 6 streamers qui s'opposent comme la dernière fois, mais 3 streamers, dont un de la ville, voilà, et 3 viewers originaires de la ville. Voilà. Donc ça, la première édition, c'était il y a, je ne sais plus, 6 mois, 8 mois. Voilà. Et donc là, on fait 3 nouveaux numéros. Et donc, il y aura 3 viewers de Montpellier. Je suis allé à Montpellier il y a quelques jours, je les ai rencontrés. Trop gentils, trop sympas. Et puis, on va faire ça aussi avec Marseille et Lyon. Voilà. Bon, j'espère qu'on en fera d'autres. Voilà. 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 Et par exemple, le streamer qui représentera Toulouse, et il y a 2 autres streamers qui vont être calés aussi, eh bien, ce sera Guil, de Guil84, passionné de Minecraft. Là. Voilà. Ça va être super sympa. Donc ça, c'est en septembre, on fait Montpellier. En octobre et novembre, on fera Marseille et Lyon. Et on fait ça à Paris, quoi. Ça va être bien sympa. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus. J'ai oublié. Pourquoi je vous dis ça, au fait? J'ai dit Toulouse? Non, c'est Montpellier, pardon. Ouais. Montpellier, Marseille et Lyon. Ouais. J'ai dit Toulouse? Non, c'est Montpellier. Je perds la tête, c'est l'âge. J'ai dit Toulouse? Ah oui, ça n'a rien à voir. Tant plus, je suis allé à Montpellier. Ah oui, par rapport à la Réunion. Et du coup, j'ai un rendez-vous à 12h pour parler de ça. Oh, putain, ne vieillissez pas, c'est un enfer. La vieillesse, c'est vraiment un naufrage. Ouais. Donc, alors, je finis justement avec les Jeux Paralympiques, parce que moi, ça me hype trop. Voilà. Ça sent bon, quand même. Ces Jeux Olympiques se sont globalement très bien passés. Et bon, bah, j'espère que ces Jeux Paralympiques vont également très bien se passer et qu'on va mettre le maximum de lumière sur la question du handicap et de l'inclusion dans notre société. Les Jeux Paralympiques prêts pour le retour de flamme, c'est le sentiment général. Hein. Les journaux vous disent que globalement, ça semble bien se présenter, ce truc, à la veille de la cérémonie d'ouverture. C'est demain soir. Moi, je serai devant ma télé. Je ne suis pas souvent devant ma télé, mais demain soir, je regarderai la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Les organisateurs et les candidats aux médailles soignent les derniers détails. Lisons cet article et après, je vous dis au revoir. Je vous retrouve cet après-midi pour du Valo. Les Jeux Paralympiques proposent la deuxième mi-temps, très attendue après la première qui a été réussie, allumée sous une pluie battante samedi à Stockmanville, près de Londres, berceau des premiers Jeux Paralympiques, hein, parce que autant le berceau des Jeux Olympiques, c'est la Grèce, autant le berceau des Jeux Paralympiques après la Seconde Guerre mondiale, ça a été la Grande-Bretagne, avec, je vous ai déjà raconté l'histoire, mais un médecin en Grande-Bretagne qui était d'origine allemande, un neurologue qui avait organisé une compétition pour les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale afin d'accélérer le rétablissement par le sport. Hein, c'est dit comme ça, les Jeux Paralympiques. Et donc, la flamme est partie de Grande-Bretagne. Elle a traversé le tunnel sous la Manche dimanche, portée par 24 athlètes britanniques, puis par 24 athlètes français. Elle est arrivée à Calais. Ensuite, la flamme est partie dans 12 villes. Il y a 12 flammes actuellement. Hein. Calais, Valenciennes, Amnéville, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Antibes, Juan-les-Pins, Montpellier, Lourdes, La Roche-sur-Yon, Lorient, Saint-Malo et Rouen. 12 villes pour les 12 jours de la compétition. Relais composé de 1000 éclaireurs. Les flammes vont ensuite allumer plusieurs départements en Ile-de-France avant un défilé à Paris mercredi. Voilà. Peut-être que j'irai la voir. Tu vois. Et puis la conclusion annoncée place de la Concorde devant 50 000 spectateurs et l'embrasement de la vasque de nouveau installé dans le jardin des Tuileries. C'est la cérémonie d'ouverture. 4400 parasportifs, dont les athlètes, de 182 délégations, vont défiler ce mercredi à partir de 20h des Champs-Élysées à la place de la Concorde, dans le cadre d'un spectacle intitulé Paradoxe, on en a parlé cette semaine, le paradoxe de la mise en lumière du handicap, alors justement que l'inclusion tarde à progresser suffisamment dans nos sociétés. Ces Jeux Olympiques ont contribué à faire décoller les ventes de billets, hein. Donc là, je vous parlais il y a quelques jours de 1,75 million de billets vendus sur les 2,5 millions prévus. On est à 1,9 actuellement, on n'est pas loin des 2 millions. Donc c'est un vrai succès de billetterie, je trouve ça formidable. Ce qui était depuis de longs mois un sujet de réflexion, voire d'angoisse, s'avère être un nouveau défi relevé. Moi, je suis super content de ça. Les ambitions françaises. L'équipe de France, 14e au tableau des médailles à Tokyo en 2021, vise le top 8. Ambition doublée de la volonté de faire évoluer les mentalités. Alors, il y a Alexis Anguincan, qui est un para-athlète et qui dit des trucs vachement beaux, je trouve. C'est l'un des porte-drapeaux tricolores. Lui, son sport, c'est quoi? J'ai oublié. Alexis Anguincan, j'ai oublié son sport. Quelqu'un là ou pas? Ou je fais une recherche Google? Vous l'avez? Je suis, mais je ne sais plus. Non, ce n'est pas la course à pied. C'est triathlon, voilà. Paratriathlon. Bravo. Et il dit, comment vous savez tout ça, vous? Putain, c'est pointu quand même. Je vous donne le nom d'un para-athlète et vous êtes une dizaine à me le lâcher comme ça? Comment vous faites ça? C'est quoi cette communauté de fous, là? Ouais, incroyable. Google, vous croyez? Non, je pense pas, c'est trop, j'ai l'impression qu'ils savent. Lui, il dit, le message est clair, les Jeux paralympiques, ça n'est pas du sport de haut niveau, de bas échelon, ça n'est pas une compétition à négliger. Tous les athlètes que je connais sont des athlètes de haut niveau à part entière avec des histoires de vie incroyables et du matériel de dingue. N'allez surtout pas croire que vous allez, allez avoir une petite larme à l'œil de tristesse à voir ces athlètes concourir. Ils ne cherchent pas de pitié, ils cherchent la reconnaissance. Aujourd'hui, il faut que ces Jeux paralympiques atteignent le même niveau que les Jeux olympiques. Il n'y a pas plus de mérite à faire du para, mais il y en a tout autant. Soyons tous unis. J'espère que ces Jeux paralympiques ouvriront les yeux de la société française sur l'inclusion. On est tous différents et peu importe la pathologie, peu importe qui on a tous à apprendre les uns des autres. Et le bien-être des gens, c'est vraiment important. Voilà. Voilà. Ils ne veulent pas être considérés comme des super-héros, ces para-athlètes. Ils veulent être considérés comme des athlètes. Voilà, on va terminer cette revue de presse sur ces jolis mots. Je vous abandonne parce qu'à midi, j'ai rendez-vous donc, pour ces trois time-out qui arrivent sur ma chaîne Twitch à la rentrée, qui est l'un des trucs sympas de la rentrée. Sachant que l'autre truc sympa de la rentrée sur ma chaîne, parce que j'ai pas mal bossé ces derniers mois pour proposer des nouvelles choses, je l'annonce, a priori, demain. Demain, je vais poster sur les réseaux une petite vidéo. Les modos, ils savent, eux déjà, ils sont dans la confidence depuis le mois de juin. Et ils ont gardé le secret, ils ne l'ont dit nulle part, à personne. Alors qu'ils sont nombreux, ils ont été d'une discrétion absolue. Ils savent depuis juin, puisqu'ils ont, ils ont participé au pilote, à la première émission, parce qu'on a fait un pilote. Hein, ils savent. Et Framboise dit, je l'ai dit à ma maman, désolé. faut pas. Et donc, voilà. Et donc, demain, a priori, je poste la vidéo pour annoncer ce nouveau rendez-vous sur ma chaîne qui est une des émissions les plus ambitieuses que j'ai proposées sur Twitch. Peut-être la plus ambitieuse, voilà. On est plutôt sur un contenu sérieux, on est plutôt sur... Voilà, on est plus proche de l'info que du divertissement, vous allez voir. Mais c'est pour continuer à vous proposer sur la chaîne à la fois du divertissement avec mon niveau de jeu de fou sur les divers jeux que j'essaye et quelque chose toujours un peu sérieux aussi, faire les deux, quoi. Voilà, et ça, je l'annonce demain, a priori. J'ai justement un rendez-vous... Ah ben non, c'est à midi. Non, time out, c'est ce soir. Ben, mon rendez-vous de midi, c'est pour parler de ça, justement, pour parler de la vidéo. Midi, c'est ça. Et 18h, c'est pour parler de time out. Voilà. Donc, normalement, vous aurez la vidéo demain. Normalement même... Non, c'est même... Ce que j'ai prévu de faire, c'est demain, en fin de matinée, en fin de revue de presse, donc vers cette heure-là, 11h30 midi, vous serez les premiers à le savoir. Demain, 11h30 midi, je vous l'annonce ici. Et après, elle sera postée, ou la vidéo, sur tous les réseaux. Elle sera sur Twitter, elle sera sur Insta, elle sera sur TikTok, elle sera sur YouTube Shorts, elle sera sur Minitel, elle sera, j'enverrai des télégrammes, j'enverrai des fax, j'enverrai des pigeons, des signaux de fumée, enfin, je vais tout donner. Voilà. Ouais. Demain, vous saurez tout avant les autres. Voilà. Et puis après, je me balancerai sur les réseaux. J'espère que ça va vous plaire. Mais les modos, ils savent déjà. Et ils m'ont dit que c'était plutôt OK. L'émission était sympa. Hein, quoi? Quoi? Sur Telegram, je sais pas, c'est pas sûr. Telegram, c'est pas sûr. Ouais, Framboise, les modos, ils ont fait un retour quali. combien sur 10? Je sais que c'est Étoile notamment qui note ses projets comme ça. Étoile, il sous-estime ses projets. Quand il annonce un 3 sur 10, c'est un banger en général. Moi, je vais essayer d'être, de ne pas sous-estimer. Je pense que par rapport à ce que j'ai proposé jusqu'ici, pour moi, c'est un... c'est un 7-8 sur 10, quoi. Voilà. Parce que 10, ça veut rien dire, 10. 10, c'est quand je mettrai enfin à l'antenne mon émission sur la pole dance, là. Voilà. Mais en vrai, c'est un 7-8 sur 10, quoi. Voilà, et toi, la 10-6 pour Culture Clash, tu vois, alors que c'est un 12 sur 10 Culture Clash, quoi. Voilà. Valo, c'est un 10. Non, mon niveau sur Valo, c'est 1 sur 10. Voilà, en vrai, quoi. Mais voilà, ça a bossé, hein. C'est des mois de préparation, de travail et tout, quoi. Ce sera une émission qui va revenir régulièrement. Il y aura une périodicité. Voilà, je ne vous dis pas encore laquelle. Ah, c'est une émission que vous retrouverez souvent. J'arrête. Je suis en train de tout raconter. Merci les amis. On fait un raid et puis je vais à ma petite réu. Allez, t'es qui n'est en live. Ok. Qu'est-ce qu'il fait mon Zakon? Ok. Ouais. Ah, j'ai une idée. Alors, j'ai une très bonne idée. Ah, j'ai une très bonne idée, je suis très fier. Bon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu en live. Ok. Il y a quelques temps, il y a un chouette gars qui est venu me faire découvrir GTA. GTA en RP, précisément, dans Simplay. Voilà. C'est Alex Click. Voilà. C'est Alex qui m'a fait découvrir ça. Les habitués. C'est ça, hein, c'est Alex, hein. Voilà. Et Alex, il est en live là, sur Once Human. Voilà. Et c'est un mec formidable. Et il m'avait préparé une émission de fou avec sa communauté. Et c'était formidable. Donc, Alex qui m'a fait découvrir GTA RP, il est en live. Et ben, c'est une très bonne idée d'aller le voir. Bonne matinée, enfin, bonne fin de matinée, bon déjeuner, bonne journée, bonne semaine. Soyez heureux, faites attention à vous. On se retrouve dans 1h, 1h30, 2h pour du Valo. Voilà. Avec mon niveau de dingue et mon nouveau pseudo, le PNJ originel. C'est mon nouveau pseudo sur. Sur Valo. À tout à l'heure, les amis. Merci pour ce matin. C'était cool. Ciao, ciao.
Allez, 1,7 km par là-bas. Samuel ! Ah là là, merci Samuel Etienne qui vient de lancer un raid. Bonjour ! Comment tu vas Samuel ? On était un peu en mode chill, c'est ce qu'on disait en prépare. Merci pour ce raid et bienvenue à tous les... Comment on dit les habitants de la chaîne Samuel Etienne ? J'en ai aucune idée d'ailleurs. J'avais passé une très belle émission avec toi Samuel. C'était très très chouette, tu m'avais accueilli comme un prince. Et c'était très très cool. Alors pour une fois, on ne fait pas du RP.